On peut dire. Tu n'es pas ici. Mais t'en retard que c'est le celui qui est ici. Tu pas en retard aussi.
Babala.
Babala. Dabadouba, didiba.
N'est en retard que celle ou celui qui anticipe ou prévoit, n'est pas en retard celle ou celui qui ne fait qu'apparaître. Alors, je soutiens une thèse en esthétique en 2015 sur la notion d'attente, une sorte de une dialectique qui met en évidence deux types d'attentes contrastées. D'une part, l'attente qu'il faut voir comme disponibilité expectante de l'être face à quelque chose qui n'est pas encore arrivé, mais dont l'anticipation, la prévision fait tenir en haleine. C'est le cas de l'attente de l'objet aimé, par exemple, tel que la conçoit Roland Barthes dans le fragment, ou dans les fragments d'un discours amoureux. L'attente de sa venue fait anticiper, c'est-à-dire fait voir avant qu'il ne vienne véritablement l'amoureux au rendez-vous. Le moment où ce dernier apparaît est par conséquent une seconde apparition qui ne fait que confirmer la prévision de sa venue. S'il venait à manquer au rendez-vous, la prévision de son arrivée, son anticipation, n'aura eu lieu qu'une fois et pas deux. Dans ce cas de figure, un retard est le temps nécessaire à la mise en branle de la prévision. Plus le retard est long, plus la prévision. Et donc l'histoire de l'attente est riche en informations. L'autre type d'attente qui m'a le plus intéressé, c'est l'attente qu'il faut considérer comme disponibilité, non plus expectante, mais accueillante. En l'occurrence de l'être face à quelque chose qui ne peut être anticipé ou prévu. La différence entre les deux, c'est que dans l'attente comme disponibilité accueillante, il n'y a pas d'objet, ou l'attente n'a pas d'objet. Ce n'est néanmoins pas l'attente de rien, puisque ne rien attendre, c'est a fortiori attendre quelque chose qui n'est pas, c'est prévoir un rien, l'anticiper. L'attente dont il est question ici est plutôt, comme le dit Blanchot, l'attente de l'attente. Quelque chose comme une mise en branle muette, insondable, dans les méandres de notre inconscient qui a, à un moment donné, de façon imprévisible, fait éclore des choses, rend visibles des choses intimes nous concernant. Ce moment de l'éclosion qui ne peut être anticipé est concomitamment le moment où se dévoile le tracé incertain et rétrospectif du cheminement de l'attente, caché, terré, silencieuse jusque-là. Quid du retard dans ce cas de figure ? Le cheminement de l'attente est insoupçonnable si ce qu'elle révèle ne peut être anticipé ou prévu. Il ne peut y avoir de retard. Il ne peut y avoir de retard quand il n'y a qu'apparition. N'est en retard que celle ou celui qui anticipe ou prévoit, n'est pas en retard celle ou celui qui ne fait qu'apparaître. N'est pas en retard celle ou celui qui ne fait qu'apparaître, ou n'est en retard que celle ou celui qui anticipe ou prévoit. n'est en retard que celle ou celui qui anticipe ou prévoit, n'est pas en retard celle ou celui qui ne fait qu'apparaître. N'est en retard que celle ou celui qui anticipe ou prévoit, ou n'est pas en retard celle ou celui qui ne fait qu'apparaître.
C'est diable les bruits, c'est diable les bruits. C'est messieurs criminels là pas qu'à jouer. C'est non blanc couillé dim dim, c'est non blanc couillé dim dim, c'est non blanc couillé dim dim. C'est messieurs criminels là pas qu'à jouer.
C'est pas mal, c'est un stock qu'il a fait, non?
Ouais.
Tu la résine?
C'est du latex, c'est de la mousse et un mange de couteau à peinture.
C'est
bien qui est
là. Salut.
Non, tu veux rejouer encore?
Non, peut-être tout à l'heure.
Sûr?
Oui.
Tu me dis, hein?
Ouais.
Bon, j'ai peut-être lire un texte aussi qu'on m'a envoyé. Il y a quand même des gens qui sont en attente. Alors vous pouvez continuer, hein, y a pas de souci. Je vais vous lire un texte d'un très bon ami à moi qui est artiste et régisseur au Centre d'art de Châtel, qui s'appelle Julian Thompson, qui m'a envoyé ce petit texte dans la nuit d'hier. comme beaucoup de textes qui sont arrivés en fait sur mon ordinateur. Donc le fichier s'appelle For Bruno, c'est en anglais, donc je vais le lire avec mon anglais qui est un peu du porn English. Je vais faire de mon mieux. Alors j'ai pas des très bons yeux non plus, il va falloir que j'adapte un petit peu. Tu veux écouter Monsieur Criminel
Okay.
So, going at it again, are we? Last time we went down that rabbit hole, I'm pretty sure we got lost. This time, it will be different though. I know it. We were going out to the tavern, you know, the one. When we were just about there, it was all suddenly. Just happened. They were. We talked, almost got the answers we were hoping for. Ran down the street, took a left, and bam! I was struck. We tried grasping everything it was spewing in our direction. Man, it was rough. Like trapping smoke in a sieve, kinda, but really not at all. I figured we'd stumble upon the same thing again, but I guess that was wishful thinking. By the time we got there, it was almost over, but we were just in time for the main event. That rising sun coming over the building tops too, who knew? Blinding, illuminating, warming, radiating. It didn't hurt, but it was intense, soft, and voluptuous, with sharp edges that went all the way up. When it was over, we all just stood there, not knowing what to do, but we understood that it was the best possible outcome. That one guy was crying, and I forget her name, started chanting. I want to say kids were everywhere, but I think everyone just reverted into their childhood form, rediscovering for the first time everything that makes them, that makes them happy. Hop, skip, slip. Woo! That was close. And we all came back, almost as if nothing had changed. But we all knew nothing would ever be the same again. Since then, I've searched everywhere for it. I think I got close once. But you know, an elusive character like this is found once every not so often. I'm glad we got to share that moment.
Yeah.
Bon, du coup, ça va me permettre de vous lire un texte. Alors, je vais m'hydrater un petit peu avant. Donc, j'ai convié une autrice et artiste qui s'appelle Laetitia Paviani. Peut-être que vous la connaissez. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Je l'ai convié donc sous la même formule que de sentir plus ou moins inspiré par le retard, la fumée, et puis de travailler en retard, d'être en retard, etc. Et puis, c'est quelqu'un qui a déjà traversé ces thèmes-là, parce qu'elle avait fait une exposition sur la négligence à une époque. Et du coup, elle m'a renvoyé sur un texte à un moment qui s'appelle « Comment je vais écrire ce petit texte ?» ou « Il me reste peu de temps pour écrire ce texte ?» Et en même temps, elle m'avait envoyé un texte que je vais vous lire et qui m'a énormément plu, qu'elle a récemment publié en anglais, je pense. Elle a proposé une traduction vers, je sais pas, j'ai reçu vers 16h. Donc j'ai lu le texte en anglais. Là, je vais le lire en français. Vous allez voir que c'est assez complexe parce qu'il s'agit d'un dialogue. Elle m'a demandé de le faire. Vous allez comprendre de quoi il s'agit très vite. Aube et crépuscule de Laetitia Paviani. Intérieur, cuisine, nuit tombante. Une femme arrête de pleurer et se met à écrire. Sur la table de la cuisine, une vieille pomme fripée, encore digne d'être mangée, du vin rouge dans un verre, et tout près, le reste de la bouteille. Quelques papiers administratifs et leurs enveloppes déchirées à la hâte, attendant d'être payés. Dans un grand vase, un bouquet de mimosa, dont la lente course vers la mort s'est figée quelques semaines plus tôt en d'élégantes courbes. Cigarette. Deux sacs de papier Kraft, assez largement ouverts pour y laisser une main ou deux en dérober le contenu. Un mélange de super fruits secs dans l'un et des amandes grillées dans l'autre. Dans le fond de ce drôle de jardin, cachés derrière les factures impayées, deux dauphins en bronze doré nagent ensemble courageusement. L'un nage au-dessus de l'autre, le tenant entre ses nageoires. Il semble supporter cet ami cher aussi gentiment qu'il le peut et avec toute l'affection dont un bibelot est capable. Le dauphin du dessous flotte dans ce qui est supposé être de l'eau, frôlant le sommet d'un faux monticule de boue dégoulinante, semblable à un petit tas de merde fraîche encore chaude. Hors de ce fouillis, un escargot en céramique allonge le nez, narines et sourires extravagants, le tout rehaussé d'un ridicule petit chapeau. Et sa maison est pleine de biques. Voix demande, femme répond. Aube, je ressemble à quoi, dis-moi ? Crépuscule. On ne peut pas dire que tu es en pleine forme. Aube, toi non plus. Je ne vois pas ta tête, mais ça m'a l'air d'être une catastrophe. Crépuscule. En forme de quoi es-tu ? Je n'en sais rien. Une graine, une cacahuète, un nouveau genre de mini-baie bio hors de prix ? Aube. Bon, j'ai 4 semaines, maman. Crépuscule. Ne m'appelle pas, maman, s'il te plaît. Aube. Je suppose que je suis plus comme ce vague goût de haricots indésirables qu'il y a parfois dans le lait de soja. À peine haricots, à peine ectoplasme, déplaisant de toute façon, un infime pourcentage d'intérêt mélangé à trop d'eau, transporté dans trop de cartons, d'ici à là, en camion ou par je ne sais quel moyen de transport polluant. Crépuscule. Ne sois pas sarcastique. Je me déplace à vélo, pas en camion. Aube. C'est vrai. Quand on est mauvais, ça nous retombe sur la gueule. Crépuscule.
Arrête un peu, tu n'auras pas de visage. Cesse de me torturer. Je voulais juste... Aube, tu avais juste besoin. Crépuscule. Besoin, oui, si tu veux. J'avais juste besoin de te parler un tout petit moment. Aube, un moment aussi petit et limité que je suis et serai jamais. Crépuscule. Ok, bon, peut-être que ce n'était pas une bonne idée. Aube. Excuse-moi, ce n'est pas si facile pour moi, tu sais, moi. Crépuscule. Pitié, arrête. Aube. Je devrais dire quoi? Genre, chère mère couveuse, confortable et accueillante suite royale, ou nid douillet? Crépuscule. Comment peux-tu déjà à ce point parler en mode Airbnb? Aube. Qu'est-ce que j'en sais? Une histoire d'ADN, peut-être? Quelques vagues communications d'intelligence, un truc qui pousse partout dans le monde, une plante, parce que les plantes ont un ADN, comme toi, comme moi. Tout être vivant possède un ADN. Crépuscule. Bon sang, je ne pige rien à ce que tu racontes. Aube. Es-tu en train de boire? Crépuscule. Et alors? Et toi, tu es une sorte de prêtre déguisé en haricot? Aube. Après tout, je peux bien profiter d'un verre avant de partir. Allez, serre-t'en un autre. Crépuscule. Pardon, qu'est-ce que tu disais? J'étais juste en train d'imaginer, enfin. Le prêtre, dans une grande robe verte et molle. Un costume bas de gamme acheté à la dernière minute dans une boutique miteuse. Le religieux tout confus là-dedans. Tu n'es qu'un ridicule ver luisant, triste et mou. Aube. Ouais. Crépuscule. Oh, pardonne-moi, chérie. Aube. Ne m'appelle pas, chérie. Crépuscule. Mon bébé? Aube. Crépuscule. Ok, je suis un peu pété, pardon. Aube. Pas grave. Crépuscule. Quand est-ce que tu auras un nez? Aube. Je sais pas. Crépuscule. Peut-être qu'il te pousse déjà ce charmant grand nez qu'avait ton père. Aube. Papa est mort? Crépuscule. Non, je crois savoir qu'il a survécu, ainsi que son charmant nez qui cachait si bien ses vilaines petites idées sur la famille. Il habite, ça paraît quand? Je n'ai jamais vraiment compris si la taille de la bite était héréditaire. On la tient de sa maman ou de son papa? Je veux dire, elle descend de la lignée de son papa ou de sa maman? La bite de mon père, elle était comment? Et celle de mon grand-père? Comment je peux transmettre une chose pareille? L'ADN encore? Laquelle tu auras, toi? Je sais même pas, au fond. Est-ce que je transporte ces gènes de bite à mon père? Ou est-ce une création totalement improvisée? Aube. Peut-être que tu devrais dormir. Et peut-être que je suis une fille. Crépuscule. Oui, évidemment. Tu n'es définitivement pas le père. Là, dans mon ventre, c'est une importante et dramatique erreur. D'appréciation historique et psychologique de la situation. Enfin, je veux dire, tu vois. Aube. Oui. Crépuscule. Tu sais quoi, à vrai dire, ça me rappelle une anecdote sordide que m'avait racontée ma mère. Une fois un été, elle devait avoir 30 ans. Elle était avec une amie dans le sud. Ses parents ont divorcé quand elle n'avait pas encore que 4 ans. T'imagines ça? À la fin des années 40? Aube. Pas vraiment. Crépuscule. Ma mère a passé quelques-unes des premières années de sa vie au Gabon, qui à cette époque était une ancienne colonie française, et où mon père et où son père avait un poste d'ingénieur dans les grands travaux. Mais sa mère, ma grand-mère, n'a rapidement plus supporté tout ça. Afrique, mari et enfant, elle a donc décidé de rentrer dans son doux et cher pays natal, la Lorraine. Mari et enfant ont suivi. Mais elle s'en est débarrassée assez vite. Le reste de son enfance, ma mère a vécu dans un pensionnat en France, tant morne, ponctué de très rares... visites de ses parents, et à l'adolescence, elle est montée à Paris pour vivre avec sa grand-mère, la mère de mon grand-père. Une veuve sicilienne très religieuse, endeuillée des pieds à la tête jusqu'à sa propre mort à elle, qui cachait du fromage et de l'or dans ses placards. Souvent, la vieille tapait la jeune sur la tête avec sa canne, et une fois, la jeune vola le carnet de chèques de la vieille et l'utilisa pour se payer cette amusante petite virée de luxe dans le sud dont je te parlais, où elle utilisa jusqu'au dernier ses chèques en bois. Mais elles s'aimaient toutes les deux très sincèrement. De temps en temps, son père apparaissait, la nuit, sous, et lui tapait dessus aussi, mais pire. Le reste du temps, c'était un fantôme. Aube. C'était la sordide anecdote ? Crépuscule. Oh non, chérie. Où en étais-je ? Aube. Le sud. Crépuscule. Ah oui, le sud. C'était une très belle fille, ma mère. Je te l'ai déjà dit. Une silhouette fine et élégante, des yeux bleus, des cheveux blonds très épais, des pommettes saillantes, un air russe, magnifique. Donc les deux filles passent par Cannes à un moment. Elle est avec sa copine dans la rue, attendant qu'un feu vert passe au rouge, quand une voiture s'arrête juste à leur hauteur et le conducteur se met à flirter avec ma mère. Le mec avait peut-être 50 ans, toujours séduisant, bavard. Il ne l'avait pas reconnu. Aube. Qui ? Crépuscule. Son père ! Aube. Son père ? Crépuscule. Son père, oui. Aube. Mais non. Crépuscule. Il avait déménagé dans une banlieue peu connue autour de Cannes quelques années auparavant. Personne ne le savait. Aube. C'est dégoûtant. Quelle sale blague ! Crépuscule. Une sale blague, oui. On se reparle plus tard. Aube. Oui. Crépuscule. Est-ce que ça va ? Je suis tellement désolé. Environ une heure plus tard, lumières éteintes, c'est sombre. Voix basse. Aube. Ça va faire mal. Crépuscule. Pas pour toi, j'espère. Bien sûr que non. Oh mon Dieu. Aube. Pour toi ? Crépuscule. Oh, tellement oui. Aube. Ne sois pas si dramatique. Crépuscule. Je ne le suis pas. Aube. Va prendre un mouchoir et arrête de trembloter comme ça. Plusieurs jours ont passé. Matin. Aube. Tu veux parler maintenant ? Crépuscule. Non, ça va, j'en ai marre d'y penser. Aube. Mais tu ne peux pas y penser. Tu ne peux pas ne pas y penser. Crépuscule. Je voudrais déjà avoir à éviter d'en parler avec toi. Enfin, tu comprends. Tu es parti maintenant. Aube. Pas vraiment. Crépuscule. Comment ça, pas vraiment ? J'espère bien que si. Aube. Oui et non, tu vois bien. Crépuscule. Je ne veux pas en parler avec toi. Aube. Ok alors, c'est moi qui vais te dire comment ça s'est passé. Crépuscule. Non, ne fais pas ça. Aube. C'était rapide. Crépuscule. Aube. Tu n'as pas eu mal, pas physiquement. Même pas au moment des piqûres dans le col de l'utérus pour l'anesthésie. Crépuscule. Oui, mais... Aube. C'était bizarre, mais pas douloureux. C'est ce que tu as répondu à la dame qui te parlait et qui venait d'apercevoir que tu avais deux grosses larmes qui avaient coulé lentement le long de tes joues jusqu'à remplir tes oreilles. Et ça avait l'air de la stresser. Crépuscule. Dieu merci, je ne l'entendais plus. Aube. Ni le bruit sinistre et saccadé de l'aspirateur. Crépuscule. Oui. Aube. Elle est vite partie te chercher du papier pour essuyer tout ça. Et à son retour, elle t'enjoignait de ne surtout pas retenir tes émotions et elle emplissait ta main de beaucoup trop de mouchoirs. Crépuscule. Je ne retenais rien, c'était sorti tout seul. Aube. Un peu avant, tu aurais préféré ne pas entendre son étonnement. Non plus, je me trompe. Tu sais, quand elle rigolait de voir ton ventre se soulever dans tous les sens sous l'effet de la canule. La canule qui me cherchait moi. Tu te souviens ? Crépuscule. Arrête. Aube. Tout se passe bien, elle disait. Ces mots-là, ils étaient sortis tout seuls, eux aussi. Non ? Tu ne crois pas ? Crépuscule. C'était juste avant que je pleure, quand c'était bientôt fini, comme elle n'arrêtait pas de le dire. Aube. Je sais, oui. Crépuscule, c'était horrible. C'est venu comme ça. Ces deux grosses larmes qui étaient si chaudes et si lentes et qui ont rampé hors de moi, comme si elles venaient de très loin. Aube. Avec les Lexomil qu'on t'avait donné avant l'intervention, j'avoue, il fallait y aller pour ressentir quelque chose. Tu étais dans un drôle d'état, ma pauvre. Un de ceux où il n'y a plus de frontières. Tu devais sûrement flotter au-dessus de ton propre corps. Crépuscule, c'est morbide. Aube. Dans des moments pareils, qui sait si c'est mieux ou pire d'être bien détendu. Crépuscule. Enfin, elles étaient quand même toutes adorables et on peut dire que tout s'est très bien passé. Aube. Oui, évidemment. Ensuite, Barbara, qui t'accompagnait, t'a lu quelques pages de la vie de Marie-Antoinette par Stefan Zweig, qu'elle avait dans son sac. Elle avait été te chercher des M&M's et une compote aussi, parce que tu avais 8 de tension. Il ne voulait pas te laisser sortir si ça ne remontait pas. Crépuscule. Elle m'a lu le passage le plus drôle, celui sur l'aménagement du petit Trianon dont Marie-Antoinette n'est jamais sortie de ses 19 ans à la Révolution. Aube. Oui, c'était marrant d'ailleurs d'imaginer cette vache dans une étable tendue de satin qu'elle venait traire avec des gants en attendant que son mari ait enfin une érection. Combien de temps ça a duré, cette affaire ? Crépuscule, 6 ans, et son fameux troupeau de moutons et de courtisans. Aube, ça t'endormait bien, ça ? Crépuscule, oui, enfin, jusqu'à ce que la fille suivante entre dans la chambre, où il y avait 3 lits. Qu'elle pleure bruyamment dans les bras de sa copine, à tel point que je n'entendais plus Barbara lire. Puis qu'elle se mette à appeler ses des potes pour aller boire des coups. Aube. Je me souviens, ta tension est vite remontée quand on est parti. Et on est parti. Aube. Je me souviens, ta tension est vite remontée et on est parti. Crépuscule. Écoute, c'est ridicule. Je veux bien qu'on parle un peu, mais pitié. Arrête avec les « je me souviens », comme si tu y étais. À ce moment-là, tu étais dans une poche, quelque part, en attendant de finir avec d'autres placentas ou je ne sais quoi. Aube, merci de me le rappeler. Crépuscule. Je t'ai évité les toilettes, c'est déjà ça. Aube. Charmant. À la fin du même jour, la nuit revient. Crépuscule. Je ne serai pas triste, je ne peux pas être triste. Aube. Et pourquoi tu ne pourrais pas ? Tu parles de moi, là ? Crépuscule. Non, chérie, d'autres trucs. Aube. Bah, je ne fais pas partie d'une bande de trucs. Crépuscule. Ah non, non, mon coco. Aube. Coco ? Crépuscule. Non, non, pardon. Je pense à la peur, à ce lourd miroir que les gens viennent te coller au visage. Regarde-toi, tu devrais ressentir la peur maintenant. La peur est ton visage. Non, c'est faux. Tu penses que non, mais c'est le cas. Regarde-toi, tête de peur. Tu attends beaucoup trop de nous, tête de peur. Aube, non. Crépuscule. Suis-je en train de parler à ma conscience ? Je suis définitivement en train de parler à un fœtus inexistant. Aube, ne sois pas désagréable. Je suis et serai toujours une partie de toi, autant que les enfants le sont, jusqu'à ce qu'ils grandissent, autant que la douleur l'est, jusqu'à ce qu'elle s'apaise. Crépuscule. Allez, ne me bascule pas dans la zone pro-life. Aube, ce n'est pas ce que je fais. Je dis juste que je suis une douleur et que tu devrais m'apprivoiser. Je suis une sorte de composant de ce que tu es en tant que femme. Je suis une joie. Une tristesse, peut-être, parfois, pas une peur. Tu n'as jamais eu peur de moi. Crépuscule. Non, c'est vrai. Mais les gens, les mêmes, qui traînent le gros miroir, ils décident pour toi ce que tu devrais ressentir dans ta vie de femme. Pleure, ne pleure pas. Tu devrais avoir peur, au même titre que tu ne devrais pas avoir peur. Tu vas avoir ce bébé. C'est ce que tu devrais faire, ou tu ne vas pas avoir ce bébé. C'est le mieux pour toi. Est-ce que vous avez pensé à une méthode de contraception ? Beaucoup de stérilés sont installés au moment des interruptions volontaires de grossesse. Je ne pouvais pas. Pas à ce moment-là. Je trouvais que c'était inapproprié. Et de toute façon, je n'avais aucun plan cul sur le feu. Ni à la maison, ni même dans un bar pourri. Alors oui, on sentait bien que tout était fait pour qu'on se sente à l'aise et surtout pas coupable. Mais au moment où on franchit la porte de la clinique pour sortir, Après avoir signé le papier, la patiente décline la pose du stérilet. On est la personne irresponsable qui joue avec la vie. Aube, tu es forte. Crépuscule. Non, je ne suis pas forte. Aube, tu n'es pas forte. Crépuscule. Oui, non. Arrête de m'embrouiller. Le truc, c'est quand quelqu'un décide de te dire ce que tu es, comment tu es, ce que tu ressens et ce que tu dois faire. Aube, j'ai compris, mais penses-tu réellement que tu peux traverser ça seul ? Crépuscule. Oh, je vois où tu veux en venir. C'est pas très sympa de ta part. La phase de peur qui croyait qu'elle n'avait pas une phase de peur et qui finit seule avec la pire phase de peur que personne n'a jamais vue. Aube, je suis là pour toi. Crépuscule. Oh mon Dieu, quel cauchemar. Aube, le cauchemar est là pour toi. La joie aussi, ne l'oublie pas. Débrouille-toi avec ça. Sois gentil avec les deux. Ça peut t'apporter plus que tu ne le penses. Crépuscule. Vraiment ? Aube. Eh bien, je te donne la réplique, maman. Crépuscule. Quelle âme mal poilue tu fais. Aube. On peut également dire qu'il s'agit de jouer avec la vie, et tu devrais au moins t'accorder ça. Crépuscule. Oui, j'imagine que tu as raison. Aube. À quoi tu penses ? Crépuscule. Je pense au nombre de fois qu'une femme meurt et renaît. Aube. Qu'est-ce que tu regardes si intensivement à la fenêtre ? Crépuscule. Oh, j'ai vu à nouveau cette maman chat marcher dans la rue toute seule. Toujours le même chemin, toujours la même attitude. Aube, quelle attitude ? Crépuscule. Je ne sais pas. C'est juste qu'elle ne s'arrête jamais. On dirait qu'elle fait ce qu'elle a à faire. Une fois, je l'ai vue, comme je l'avais vue tant de fois auparavant, moi fumant à la fenêtre, elle poursuivant sa route, et cette fois, un chaton la suivait. Elle a traversé la rue au niveau de ma fenêtre, mais le chaton a pris peur et est resté en arrière. Il n'a pas traversé la rue. La maman chat, avançant toujours, a disparu, sans changer la moindre mesure à son rythme, dans la rue suivante. Le chaton était sous une voiture, miaulant à fendre le cœur de n'importe qui. Le mien, juste au-dessus, était déjà en purée. Aube, comment il est maintenant ? Crépuscule, pas loin. Aube, qu'est-ce qui est arrivé au chaton ? Crépuscule, je suis descendu dans la rue avec de la nourriture pour jeune chat parce que j'en avais eu récemment qui avait seulement 2 mois et qui bavait si tristement chaque nuit dans mon cou. Il est mort quelques semaines après qu'on l'ait eu. Aube. Est-ce que c'est le moment où tout le monde pleure ? Crépuscule. Non. Donc quelques minutes plus tard, j'étais à 4 pattes à côté de la voiture, les fesses en l'air, jetant des poignées de croquettes au chaton et discutant avec lui en miaulant comme une maman chat. Il avait l'air terrifié. Je ne sais pas trop quoi faire. Il a mangé un peu, il était prêt de sortir quand un gars est arrivé et a commencé à me parler et me parler. J'ai dû remonter et laisser le chaton sous la voiture. De retour à ma fenêtre, le gars me demandait si on pouvait se revoir. Aube, quelle belle brochette d'imbécile. Crépuscule. J'ai continué à regarder par la fenêtre de temps en temps. Bien plus tard, toujours au même rythme, suivant exactement son même trajet habituel, la maman chat est apparue au bout de la rue. Elle était revenue, mais elle n'avait rien changé à sa course. Je suis allé me coucher, rassuré. Aube. Et ta mère, on ne l'a jamais chopée pour tous ces chèques en bois claqués sur la croisette ? Crépuscule. Aussi, mais pas tout de suite après. C'était aussi une drôle d'histoire. Aube. Raconte ! Crépuscule. Eh bien, des années après, ma mère était sortie avec un type qui était fou amoureux d'elle, mais elle l'avait plaqué. Elle n'avait gardé de lui qu'un vague souvenir et un petit poste de télévision sans grand intérêt. Le type, au cœur brisé pour se venger, était allé au commissariat déposer une plainte contre elle, pour vol. Aube. Je vois. Crépuscule. C'est à ce moment-là que les flics ont fait le recoupement avec les chèques volés. Elle a fait 6 mois de prison à la prison des femmes, qui se trouvait à l'époque rue de la Roquette. Sa tante avait pu lui éviter ça, car au fond, il n'y avait pas de plainte de la grand-mère. Mais elle crut bon de ne pas intervenir, histoire de mettre un peu de plomb dans la cervelle à ma mère et de se débarrasser du problème par des voies légales et justes. Aube. Sympa. Crépuscule. La prison n'existe plus aujourd'hui. Au départ, il y avait deux établissements, la Grande Roquette et la Petite Roquette. La Petite est devenue une prison pour mineurs. On enfermait les gamins dès l'âge de 7 ans. Jean Genet y a été emprisonné quand il en avait 15. Il le raconte dans Le Miracle de la Rose. La prison était assez particulière. Elle avait été construite sur un château fort composé de cellules strictes pour isoler les détenus. Les promenoirs étaient individuels, avec un petit robinet au bout pour une toilette sommaire à l'extérieur. Pas de réfectoire commun, pas de communication possible, y compris dans la chapelle, où les enfants s'entassaient sur un mur de 276 petites alvéoles. Une ville composée d'une foule de petites solitudes, décrira Victor Hugo. Aube, dingue. Crépuscule. À la première fermeture de la prison-hôpital pour femmes de Saint-Lazare aux alentours des années 20, on a transféré toutes ces dames, les détenues coupables délits mineurs, à la Petite Roquette. Mais jusque dans les années 40, on en guillotine encore quelques-unes, comme dans les cas de la mère infanticide, Georgette Monneron, ou de l'avorteuse clandestine, Marie-Louise Giraud, en 42 et en 43. Les conditions de détention s'assouplissent et deviennent plus communautaires. Ma mère me racontait en rigolant que la matone lui avait lancé un jour. « Toi, Paviani, tu es de celles qui vont revenir. » Aube, c'est vrai ? Crépuscule, qui sait ? Quoi qu'il en soit, le quartier s'est rapidement bourgeoisé, cette espèce de forteresse d'un autre âge commençait à déranger les riverains. La Roquette a été détruite en 74. Je suis né 2 ans après. Aube, son premier enfant ? Crépuscule, pas vraiment. Mais disons que je suis une sorte de miracle. Il est tard, non ? Aube, ah, j'ai tout mon temps maintenant. Crépuscule, oh pitié, bon ok. Mais je ne crois pas que tu aies envie d'entendre ça. Aube, je n'ai pas particulièrement d'envie, encore moins d'oreille. Rappelle-toi. Crépuscule, très bien, tant pis pour toi. Ma mère s'est mariée quand elle avait 20 ans et elle est tombée enceinte tout de suite. Ils s'estimaient trop jeunes pour avoir un gosse. Ils ont eu peur, enfin que sais-je. Toujours est-il qu'elle a tenté d'avorter chez une accoucheuse, à l'ancienne. Aube, c'est-à-dire ? Crépuscule. Avec une aiguille à tricoter. Aube. Ah bon ? Comment ça ? Crépuscule. Tu ne veux pas savoir. Bref, il y a eu des complications, une hémorragie, et ma mère s'est retrouvée transportée d'urgence à l'hôpital. Je t'informe qu'à cette époque, l'avortement était illégal et que les médecins qui le pratiquaient étaient hors la loi. Aube. J'ai du mal à te croire. Crépuscule. Ici, le travail d'interruption de la grossesse était déjà très engagé. Il suffisait de le terminer et de libérer la patiente. Mais il se trouve qu'un médecin particulièrement zélé et vertueux a pris la peine de rattraper le coup. Le fœtus a été raccroché. Ma mère a dû poursuivre sa grossesse à terme. L'enfant, c'était une fille, est née sans vie. On a emporté le corps vite fait, bien fait, dans une boîte à chaussures. Ma mère ne s'en est pas remise. Elle a quitté son jeune mari, qui s'est tiré avec sa meilleure amie. Aube, j'ai envie de dormir. Aube, j'ai envie de vomir. Crépuscule, je t'avais prévenu. Aube, si ce bébé avait vécu, tu ne serais pas là en même temps. Et il est où le miracle ? Crépuscule. Suite à tout ça, ma mère a fait fausse couche sur fausse couche. Puis on lui a fait comprendre qu'elle ne pourrait définitivement plus avoir d'enfant. Aube. Un diagnostic peu fiable à l'évidence, puisque tu es là. Crépuscule. Exact, mais il s'est passé quelque chose d'étrange aussi. Aube. Allons bon, quoi encore ? Crépuscule. Eh bien, ma mère était tout de même toujours suivie de près par des gynécologues à cause des douleurs et pour surveiller tant ses ovaires que son utérus, qui en avait pris un coup. Par ailleurs, elle vivait assez librement sa sexualité, n'ayant plus besoin de se soucier de tomber enceinte. Elle venait de passer la soirée avec un super beau mec, un jeune skipper photographe de 10 ans de moins qu'elle, et ils avaient fini sur la moquette de son studio. Quelques morceaux de Leonard Cohen plus tard, elle est tombée enceinte direct. Aube, direct ? Crépuscule, direct, mais attends. Il se trouve que peu de temps auparavant, elle avait vu un gynécologue, qu'elle ne voyait pas depuis si longtemps. Il lui avait prescrit un traitement différent pour la première fois, un truc de cheval apparemment. Aube, tu m'étonnes. Crépuscule. Donc elle appelle son secrétariat pour lui demander ce qu'il lui a refilé et si c'est lié en quoi que ce soit avec sa grossesse inattendue. Aube, et alors ? Crépuscule. Et alors, on lui a répondu que le docteur ne pourrait pas lui répondre, pour la bonne raison que le docteur était mort dans un accident de voiture. Aube. Non. Crépuscule. Tu veux dire qu'en fait, tu serais l'ultime réincarnation d'un médecin blanc, un médecin cis, peu fantasque, en mal d'un corps pour y déposer son âme errante. Tu veux dire qu'en fait, tu serais l'ultime réincarnation d'un médecin blanc cis, peu fantasque. Un médecin en mal d'un corps pour y déposer son âme errante. Merci Laetitia. Salut Anne. Tu viens avec nous ? Je suis désolé, je t'ai pas accueilli comme il se doit. Mais reste pas à l'écart toute seule avec ta bière. Viens t'amuser avec les copains et les copines. Non ? Bon. Mathis, j'ai vu Pascaline.
Oui, Pascaline est là, mais...
D'ailleurs, on a bavardé déjà un petit peu.
Mais si tu veux...
Si tu veux poursuivre sur d'autres textes.
Bah non, j'avais rien de prévu à part ce que j'ai lu.
On peut parler un peu.
J'ai des bières.
Bah ouais, ouais. Ouais, ok, c'est texte, cool. Ouais, ouais. Qui veut des bières ?
Moi, ça va, merci.
Antonio, t'es toujours à l'eau ?
Bah ouais.
Julie, on vous ramène de l'eau fraîche ?
Ça, c'est cool, ouais. Mais il y en a, je crois, regarde.
Ok.
Mais vas-y, Mathis, tu voulais dire quelque chose ?
T'es chaud ? J'ai vu Pascaline, donc tu me disais que tu l'attendais.
Pascaline et Olga sont là.
On est live, là, sur la voix ? Ah, il marche pas, lui.
Il y a moyen de le mettre en route, le micro ?
Tu veux passer un petit son, peut-être, Bruno ?
Ah ouais, on peut faire ça. Ouais.
Entre deux longs textes.
Avec plaisir, avec plaisir.
Histoire que les auditeurs ne s'endorment pas. Ou alors s'endorment.
Alors, qu'est-ce qu'on va regarder ?
La logique de Boris. C'est le fruit mûr. La logique du porisme. C'est le fruit mûr tombé foutu de n'avoir pas été cul.
Je croyais que c'était des dessins, tu sais, genre sonores.
Voulu ou pu, connu ou su. Parce que l'homme a trop attendu.
Bah, si tu veux m'interrompre pendant la lecture, vas-y, mais a priori, c'est normal.
Si tant est que c'est l'homme qui veut.
Tu veux te mettre là, Baris ?
Non, je suis juste.
La logique de Boris. C'est l'écorchure qui s'infecte, c'est le microbe qui se délecte quand se rengorge le fleurange. C'est la fissure qui rigole et la rigole qui se fend la gueule. C'est la chaussure qui prend l'eau, c'est la peinture qui s'écrase. La moisissure prend ses ailes. La logique de pourrissement. C'est la chemise qui se fait la malle, la redécote qui est en crise, d'avoir été par trop portée, souillée, lavée et empesée. Et la couture n'en peut plus, la trisserie de la reprise. Un petit point de chaîne à droite, un petit point de croix à gauche, un petit point arrière devant, un petit point devant derrière. La logique de pourrissement. C'est la centrale qui pousse la mort et la rivière qui a mal froid. C'est la crevette qui rend l'âme et l'arbre à pain qui a le glou. C'est l'autre coco en berlingot, c'est pour bientôt je coupie. C'est la corde de la mer igname qui étrangle la mer igname. La logique de Boris Mann, c'est quand débarquent les macros avec leurs mines de sex-shop. On vend du sable au marché blanc pour poser un mal de mélanine. Et quand nos plages font le trottoir sous leur licence de maison close, nos enfants nus ne peuvent plus leur faire l'amour au grand soleil. La logique
logique de pourrissement. Ce sont les arbres qui s'emmurent dans une névrose de béton, les oiseaux glissent à la dérive, les flics engraissent leurs papillons, les PV jouent feuilles mortes, les voitures valsent à la pelle, la fourrière rêve de cimetière, la chaussée souffre de corps aux pieds, la ville a mal aux entournures. C'est le bébé qu'on s'est payé dans la boutique du père Freddy. Il fait la loi dans la maison, il fait caca ou qu'on lui chante, ouais, même dans le crâne des petits. On ne se parle plus quand il chatasse, on ne s'entend plus quand on se parle. Avec sa tête rectangulaire, c'est le portrait de son papa. Il a la bouche en sucre d'orge, il fait risette et c'est tout rose. Il a les yeux bardés de guerre et injecté d'apocalypse. Il passe pourtant de temps en temps un oiseau bleu dans son iris. La logique du pourrissement, c'est quand s'encombre le sinus de la conserve en ras-le-bol. Le fer blanc gonfle puis se mouche et les décombres qui s'amoncellent ont des dégaines de gratte-ciel. Tel un grand rire au bord d'un gouffre, un matouba d'éclat de gorge. Et comme un corps mourant blessé, le rire s'élance en vol plané et fouille une gueule de volcan pour assouvir sa démesure. La logique du pourrissement, c'est un destin que l'on marchande dans un pays qui marche à l'os. Une terre du sud qui perd son or, un champ d'amour qu'on hypothèque. Ce sont deux sœurs qui se déchirent dans un asile à ciel ouvert. L'espoir trimballe de croisse. La lune rumine ses angoisses, les mots ont l'éléphant fiasis. La rhétorique traîne la jambe et l'abcine se fait fondeur quand les neurones se font de la bile. On vend de la foi à tour de bras et le gourou dans le bras long. On brade la joie à tour de bras, on plaît des gants pour tuer le sang dans les agents du Nirvana. Le père Noël s'informatise et la culture se maquille. Les jeunes chevauchent dans leur ghetto, le paradis de la défonte. Le diable saute de ses miroirs, la balle refuse de mourir et la folie pétrit ses joues, tandis qu'elle siffle un air fin.
C'est le swing parler, mais, de cette logique.
En fait, elle a été invitée. Bon, Anne Goldin a
un
été.
Un soir de mercredi, décembre justement, un chien chauve travaillant du chapeau au milieu d'un macadam vague, près d'un amas d'âmes paumées et de dépouilles de sacs volés, me confia qu'il avait conçu entre deux ulcères d'estomac la prodigieuse problématique de la tactique du pourrissement, la logistique du pourrissement, la dialectique du pourrissement, la statistique du pourrissement, la balistique du pourrissement. Et telle école.
Chut, pas parler.
ne divulgue pas le, l'info.
D'accord.
Rendez-vous parce que tout à l'heure, on va parler de la sanction de l'Union.
I want to get me the strip right now. I'm not drunk, you see.
Hey, salut Colombe. Mathis, tu nous dis quand t'es prêt.
Et j'ai halluciné que Marie-Laure elle m'envoie. Yes, papa.
Bonsoir Bruno.
Salut Mathis.
Merci de nous avoir invités. Je dis nous parce que nous avons répondu à ton invitation. Par la volonté de réexposer un texte qui avait été écrit en 2016 ou 17, il me semble, suite à une invitation que 13, donc l'espace indépendant à Paris, avait reçue d'un festival de performance et de théâtre à Amsterdam qui s'appelle Kunstvlei. Et 13 recevant beaucoup d'invitations et ses membres ayant des activités diverses et qui se recroisent parfois. On a, avec Pascaline, Olga et Galien, entrepris l'idée d'une performance et dont je vais vous lire le texte. Donc c'est une pièce de théâtre. Je vais tout vous lire, les didascalies, tous les personnages. Et... je ne l'ai pas relu depuis 3 ans, ce texte, donc excusez si ça bafouille. Ah oui, d'ailleurs, c'est un texte en anglais.
Très bien.
Je vais d'abord vous lire les différents personnages de la pièce. Peut-être que parfois je m'arrêterai en français pour expliquer des choses pas claires en termes mise en scène. Characters. The Artist, qui était joué par Olga. The Application, le dossier de subvention. The Deadline, la deadline. Ah oui, pardon. Merde. Oui, je vais finir. The Budget, l'auteur numéro 1 et l'auteur numéro 2. Le titre de la pièce est The Grant Application Deadline Crisis Show, qui pourrait se traduire par la deadline, la crise de la deadline sur un dossier de subvention. Authors 1 and 2 build the scene. Author 1, using a cellophane roll, make appear a kind of cardboard, a canvas which will be the set. With a giant palette and a brush, Author 1 writes on the plastic surface the grant application deadline crisis show. Simultaneously, Author 2 erases the letters, creating a colored background, like a Raoul Dufy painting watercolor. Then, using paint again, they rapidly depict the shape of a sheet of paper and its abstract lines of writings, introducing the application. The application punches a hole into the cellophane set at the level of his head and two for his arms, for him to become a sheet of paper. Author one hands him this text I am reading now. The application, le dossier de subvention. Reading and addressing the audience in a persuasive manner. Dear comedy, dear comedy, dear committee. My deep understanding of the Highway Number 3 public sculpture open call is that of an ever-changing perspective in an ever-speeding society. And like many cars passing on that way, society has different speeds. Some of us drive electrical cars on electrical roads. Some of us drive diesel trucks loaded with coal. Most of us don't drive a sports car. The spirit of my proposal for the Highway Number 3 public sculpture project is that of a reflective space for all, towards all, rather than confrontational. Introducing the artist. Let's try something else. The application. Dear comedy, dear committee, my honest understanding of the Highway Number 3 public sculpture project is that of an ever-changing landscape in an ever-changing society. Like many public transport systems that are deployed on our roads, we live a life of connections with strangers also on their journey. The spirit of my project reflects this diversity, towards rather than apart. The artist. Grant application is a form of poetry where our creative state, our thrill, our anxieties are fueled and thrown with the feeling of urgency into a transcendental ballet of words onto this blank page. The artist draws an abstract form supposed to be the sculpture he is proposing to the comedy on the plastic canvas. I imagine the project could be green, maybe with a little bit of red. The budget, pointing to a part of the drawing. That's going to be super expensive. The artist. Well, I could get an intern to cut the expenses. The application continuing. This project will focus the definition of its identity within the public transportation with the help of the commuting community to create an inclusive and horizontal state of production. My role as an author will be to dilute itself as I travel to meet other users of the highway. This is, in my opinion, a way to reaffirm a social vision of art making. The budget. Yeah, of course you could ask someone to work 50 hours per week for a quarter of the minimum wage, but with the reward of gaining the amazing experience of working with you on a really interesting project. It wouldn't be illegal.
Or you could also use a cheaper color and afford to pay correctly people you work with. Why don't you try with blue? The artist, to herself, lost in thought and falling into the blue. Blue, blue, you're right. Something is knocking on my door. The Joseph Cornell Blue, Maggie Weinberg, the Blaue Reiter. The artist goes back to her drawing, the application continuing its lecture. At the heart of this project is a feeling. I name the blues blue. Blue has been used since ancient times in arts and in sacred social rituals to transcend the understanding of our realities. Blue is not just a color made from crushed lapis lazuli pigments. Blue is the sky we all walk under. Blue is the feeling we all live with. Blue is the road we all drive on. Blue is the sculpture we all work for. In respect to the spirit of this open call, could someone read me the open call again, please? The budget and the deadline begin to search for the call, looking through all their papers stored in a big file. At the same time, the application checks if he wasn't forgotten in his text. The artist continues to paint, focused now on small details in front of her. Finally, the deadline finds the call. The deadline. Here we go. I got it. Reading the document. The foundation and his director are proud to announce the opening of our annual open call session in link to the National Highway Rehabilitation Campaign. Thanks to the generous support of our German car company, a Dutch bank, and a huge French alcohol brand, the selected artists will have this year the chance to produce a major in-situ installation project with a very comfortable budget. In close collaboration with the National Road Workers Alliance, in order to celebrate the 100 years of the Highway No. 3 construction and to anticipate its rehabilitation, the artists are expected to propose a work of art that will both root itself in history and project in the future. Taking in account the public dimension of a highway and its collective imaginary, the project is attending to be iconic and highly participatory. List of demanding documents. The application form correctly completed. A 10.5-page portfolio. A curriculum vitae. 3 recommendation letters. A budget highlighting our expected use of the 12,000 euros. And in speaking, the deadline, using a painting and a brush, draw a long line across the plastic cardboard and overlay the artist's painting. This is the deadline. The artist, astonished. But it's way too early. It's nearly now. I think I have a business crisis. This state of high anxiety fueled by my short-term goals, tight schedule, future projects for which I feel already late, like the owner of a small company who has to deal with his management, suppliers, staffs, quotes, bills, and accountability. When I don't even know whether I'll get the money or not. The budget. Okay, let's get back to the work. Reading his text. Research and development. SUV Class A rental, 800 euro. Driving license classes, 1,200 euros. First edition signed of Edouard Rouchat monography, 700 euros. Audiobook of On the Road by Jack Kerouac, 3 euros. Miles Davis, Kind of Blue, vinyl re-edition, 45 euros. A flight to Munich, then train to Murnau for the visit of the Franz Marc Museum, home of the Blaue Reiter collection, and 3 nights in local hotel, 500 euros. Total, 3,150 euros. Ça, c'était le devis. Accusatory. Okay, your research and development now represents 26% of your budget. Do you think it's too much? The artist, annoyed. You know, each time I'm with you, with all your numbers, your lines and your amounts, I feel so, like, dispossessed. But did you ever take into account the amount of feelings, the sum of my personality? The budget. I didn't say it would be illegal, the artist. Well, I want to be illegal. I want to be like the wind between their teeth, like death in their backyards, like Le Dormeur du Val. I want to ask no permission to nobody, steal the money and drive away. Author 2. Excuse me. I'm one of the authors of this play, and I just wanted to say something to the audience. As he speaks, all the deadline, the budget, the application, and author 1 are laying sheets of cellophane on the floor at the front of the painting. The artist, annoyed again. Oh, you're that kind of author. Author 2. Hello, I apologize. My name is Matisse. I just wanted to say that as a member of Trez and as an artist, I have written a few applications for grants, residencies, and call for prizes. I remember one in particular where the director of an arts center called me and asked me to apply to a residency in a banana plantation in Central Africa owned by a massive French company. Also, the arts center main sponsor. I Googled the banana company plus scandal just to check. Whatever I found, I could not apply after seeing what I saw. But that's just one example. The artist looking at Matisse. He's looking at him quite upset. Another one with Trez. I remember we were so late, only starting to fill in the documents 2 weeks after the deadline. So, you know, crisis is part of the... Using a fake knife, the artist interrupts author 2's sentence by stabbing him in the stomach. Author 2, Matisse, spurts fake blood on the canvas, adding a final touche to the painting, then falls on the ground where the cellophane was laid. The budget, the application, wrap Matisse in the cellophane and drag him away. Then the budget and the application come back on stage. The deadline, happy. This is a perfect deadline. Let's send it. The deadline, the budget, and the application help the artist to cut the canvas and fold it. Author 1 brings an envelope with a stamp of with the face of Emperor Gallien on it. The artist folds the canvas in the envelope and throws it out of the window. Author 1 exits stage. The deadline, the budget, and the application applaud. Author 1 comes back on stage with a giant check of 1,200 euros and give it to the artist. The check has a lot of bananas on it. It has also logos from Ricard, Audi, Deutsche Bank, and many, many, many bananas. Now that's the end.
Selling each romance, ooh, what they say. There will come a day, a youth will pass away. No, no, no. What would they say about me? When the end comes, I know then I'm just a gigolo. Life goes on without me. I'm just a gigolo, gigolo. Everywhere I go, people know the pride I'm playing. Hate for every dance, selling each romance. Ooh, what they say. Ah, there will come a day, and you will pass away. No, no, no. Oh, what will they say about me? When the end comes, I know that I'm just a gigolo. Life goes on without me. Cause I ain't got no body.
And there is nobody cares
for me.
No,
nobody cares for me. So sad and lonely. So sad and lonely, baby. Won't you come and rescue me? Cause I ain't dancing.
And I sing.
I sing
sweet love songs. All of the time.
Lonely, 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 lonely,
lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely,
lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, Bruno.
Ben, merci Mathis. Bravo, bravo à vous tous. On s'est bien marré. Et du coup, peut-être que tu pourrais décrire un peu la mise en scène, le fameux tableau, quelle taille il a, les costumes.
On l'a fait qu'une fois. C'était un grand tableau en cellophane. Sur lequel la pièce évoluait. Et à la fin, on roulait le grand tableau, on roulait Matisse dans le rouleau de cellophane. Et on faisait passer tout ça dans une grande enveloppe avec la tête de Galien sur le timbre. Et on le jetait par la fenêtre du centre d'art.
Qui était à 8e étage.
Non, je crois pas. Non, on jetait pas Matisse, on faisait semblant de faire entrer dans l'enveloppe et ensuite on lançait l'enveloppe. Voilà.
Bon bah super.
Mais peut-être qu'on écrira un jour la suite.
La suite ?
Ouais.
Ça serait quoi ?
Quand le dossier est reçu et que il est lu par le comité de sélection peut-être.
Mais il y a eu la suite avec
Ah oui, il y a eu un peu une suite.
Ouais, il y a eu une suite avec ce poème.
Je me souviens pas d'y avoir assisté parce que j'étais passé en cours.
Mais on avait lu un de tes textes, ce poème, c'était une invitation ouverte pour une lecture, un marathon de poésie. Et à la base de cette invitation, il y avait une petite histoire qui était un poème et une enveloppe d'huissiers se rencontraient et allaient boire des verres ensemble pour faire cette expo. Mais la lettre de recommandé oubliait qu'elle devait apporter une injonction de justice à un artiste qui n'avait pas payé l'URSSAF.
Qui s'appelait 13. Ouais. Et parce qu'en fait, ça vient de l'histoire de 13 qui s'était fait. Enfin, pendant l'expo de David Caille, les huissiers étaient venus et avaient changé la serrure pendant une semaine. On n'avait plus accès au lieu pour défaut de paiement. Et c'était l'histoire qui permettait de raconter ce qui s'était passé. En fait, c'était la lettre de. C'était le recommandé, le sub-pima. Qui était allé boire des bières au lieu de venir nous dire qu'on était bientôt virés.
Si seulement.
Si seulement.
Si seulement les recommandés buvaient de la bière, on serait bien tranquille.
C'était du coup un peu l'histoire à la base de ce poème où on avait commencé à organiser cette soirée.
Parce qu'en anglais, subpoena, c'est une injonction de justice à toute échelle. Le président peut recevoir un subpoena qui. Lui demande de venir se présenter dans une cour de justice et en fait du coup c'était juste un jeu de mots entre subpoena et poema.
Comment tu appelles ça?
S-U-B-P-O-E-N-A.
Ok, c'est le N et le M qui changent en fait, il y a une jambe en plus.
On a juste changé le N pour M, subpoema.
Et subpoena c'est d'origine latine comme expression?
Oui. Ouais.
Et ce qui signifie
Un ordre.
Un ordre.
Ouais. Quelque chose qui vient par-dessus, sub, qui a une... semble une lettre qui vient te par-dessus la loi. Je peux checker peut-être parce que ça fait longtemps, je t'avoue.
Mais sub, c'est dessous, non?
Ah ouais, t'as raison.
Submarine. Les sous-marins, ils sont sous l'eau, pas dessus.
Le fichier à la radio. Et voilà, et quand tu nous as invités pour ça, on s'est dit qu'on...
Ah ben moi, ça m'a enchanté quand vous m'avez proposé ça. Parce que ça tombe tout à fait à propos, et puis c'est aussi une psychose qu'on partage beaucoup quand on est artiste et qu'on essaye de se confronter à ce genre de situations et qui sont effectivement, c'est très juste de la façon dont vous les pointez, c'est que C'est pas une entité qui va proposer un dossier. Un dossier, c'est vraiment une machine à produire du discours qui est déjà existante, qui dirige. Et puis effectivement, il va y avoir l'ego de l'artiste qui va s'y confronter, les limitations de la deadline, ouais. Le budget.
Et d'ailleurs, donc Poena, c'est penalty, c'est la pénalité. D'accord. Donc sub, t'es sous la
pénalité.
Sous la pénalité, ouais. Donc le poème et la pénalité étant évidemment pour nous
la même chose.
Artistes et policiers des.
Mais ça c'est lié à cette histoire de d'écriture administrative et de à la fois ce qu'elle te coûte et puis des fois aussi quand tu commences à pouvoir jouer avec, ce qui est assez rare. Ouais.
C'est difficile de jouer avec, mais. Ouais. Mais effectivement, après, il y a la question de la phobie qu'on peut éprouver vis-à-vis de ces objets. Quoi. On parle, y a des politiciens qui ont une phobie administrative pour ne pas déclarer leurs impôts, par exemple.
Bien sûr.
Mais quelque part, moi, ça me, quand je remplis effectivement une déclaration de la maison des artistes ou les impôts, c'est un énorme vertige, en fait.
Bien sûr.
C'est là où tu te confrontes à une façon de mettre en langage ta propre activité qui correspond pas du tout à ce que peut te souffler ton ego, qui est assez justement désigné dans le texte, où l'artiste est quand même très imbu de lui-même, quelque part, quoi. Il a ses grandes visions qui sont très décalées. Et puis, t'as effectivement l'injonction c'est le dossier lui-même, quoi, qui lui va pointer vers des réalités toutes illusoires qu'on essaye de nous construire aujourd'hui avec des questions de collectivité, d'horizontalité, de partage de l'art dans le milieu urbain et qui sont des normes à la fois pipeau, frein vis-à-vis de l'artiste, mais en même temps qui sont tout aussi réelles, en fait, quoi.
Après, ouais, je pense que la pièce, c'était l'idée de éclater ce que peut être le processus de poser une demande de subvention et d'éclairer que, quand bien même tu peux évidemment vouloir payer un assistant si tu l'as, faire en sorte que les choses soient transparentes, quand t'as ces sommes d'argent qui te sont posées sur le papier, parfois des pensées qui t'échappent qui pourraient être de genre tout prendre et te barrer, quoi.
Ah bah bien sûr.
Ouais, c'est une pièce comique.
C'est une pièce comique, évidemment.
C'est une pièce comique, mais moi j'ai trouvé ça très juste de faire éclater le discours, en fait, et de donner la parole à des objets. C'est aussi, on est aussi dans cet univers-là des objets qui prennent la parole. On est un peu dans une espèce de Wonderland, où d'un coup les objets prennent leur propre autonomie et qui est pas toujours empreint de bonnes intentions vis-à-vis des humains qui les manipulent.
Et,
quoi.
Et pour nous, l'artiste qui était joué par Olga, c'était pas l'idée d'écrire un rôle, parce qu'on écrivait aussi le rôle, parce qu'on savait que, par exemple, Olga allait jouer le rôle. On n'écrivait pas un rôle satirique, tu vois. C'était pas une caricature d'un mauvais artiste qui aurait eu, tu vois. C'est en fait
c'est
un artiste
qui a.
C'est un inconscient, quoi, tu vois. Et qui a. Voilà, donc c'est pas quelqu'un
qui répond à un autre dispositif de parole, c'est-à-dire que c'est pas il n'est pas isolé, il fait partie d'une machine qui le fait parler, tu vois, quand il parle de The Blur Writer, quand il essaie de justifier le bleu, et en fait il se raccorde à ce qu'il est socialement en tant qu'artiste aussi, et sa propre formation, et qui lui font dire ça. Et c'est ça qui m'a plu dans le texte, c'est qu'en fait on s'aperçoit qu'il y a plusieurs registres de discours qui se rencontrent, mais qui sont aussi plusieurs machines à produire du discours, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement le discours qui est produit par le filtre du dossier, ou s'il va être filtré par la deadline, ou la façon dont il est présenté par le commanditaire du truc, ou le discours de l'artiste, chacun sont issus de machines différentes, en fait. Et c'est pas parce qu'il est lui incarné que c'est un corps et qu'il a la mythologie d'être artiste, donc une espèce de voix isolée, où tu vois, avec cette mythologie d'une espèce de moi complètement inviolable à l'intérieur de lui. Au contraire, on sent qu'il est tout en surface, en fait, dans le truc, et que ses volontés, le fait de vouloir mettre du bleu ou même de dessiner, elles sont à la fois motivées par son propre identité sociale quasiment, et en même temps elle va en négociation, en contradiction avec les autres acteurs du dossier. Et on s'aperçoit effectivement que le discours au final qui est produit par ce type d'objet, qui est quand même un objet quand même très particulier et très avilissant pour les artistes, enfin à mon sens, hein, moi j'ai avec ces histoires de demandes de bourse, de dossiers de résidence, moi j'ai l'impression qu'on nous met aussi dans des positions de demandeurs d'emploi constantes. Enfin, tu vois, moi je sais qu'avant de comprendre un petit peu comment fonctionnait ce métier aujourd'hui, le fait d'écrire des lettres, c'était des lettres de motivation. Et du coup, moi, ce que j'ai du mal à assimiler dans ce type d'activité, c'est qu'effectivement, j'ai tout le temps besoin de me justifier, notamment par rapport à quelque chose qui n'est pas encore de l'ordre du réel, puisqu'on est dans le cadre d'un projet. Or, on sait très bien que dans une activité artistique, on va pas d'un point A à un point B, et que ces présentations de projets, elles sont toujours très, très fictives. Il y a toujours une... c'est là aussi, c'est bien dans le texte, c'est qu'il y a toujours une parole qui déborde et qui se... l'artiste, il s'emporte aussi pas mal. Mmh. Tu vois, il a des espèces de... Il a des visions. Alors que les autres ont des visions aussi, mais qui vont pas du tout dans la même mythologie romantique de l'artiste qui essaye de placer un petit peu une perception qui se voudrait unique, inviolable, originale, etc., quoi.
Mais tous les autres personnages sont l'artiste aussi, quoi. Tu vois, c'est juste toi quand tu dis « je suis en retard ».
Bah, en même temps, la façon dont parle le dossier, la
oui,
façon
le
dont
dossier,
parle
effectivement, c'est,
tu vois,
c'est,
la deadline, le budget, c'est vraiment ce que ça dit. Ouais. Enfin, tu vois, c'est à peine si vous leur donnez un petit peu de corps en les faisant parler, mais en même temps, vous suivez vraiment une espèce de protocole. Enfin, pour moi, ça répond clairement à ce type de direction, quoi. Et il y a un côté, ouais, un peu. Tu dis c'est pas une satire, mais en même temps, on est dans une forme de grotesque aussi.
Oui, mais je pense qu'on voulait pas faire une caricature d'un artiste qui serait mal intentionné, tu vois. C'était nous, quoi. Ouais. Hein, tu vois, avec en tirant des traits négatifs.
Non, qui est juste, c'est que la satire, elle s'identifie pas à un des protagonistes, mais elle se fait dans la rencontre et les chocs qu'ont ces différents registres de discours, en fait. C'est là où on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui est complètement désaccordé et qui plus est, et là, c'est là où c'est intéressant, qu'il ne peut pas faire corps. Parce que tu dis, en fait, tout ça, le dossier, la deadline, tout ça, c'est l'artiste. Et on pourrait effectivement les réunir pour faire un artiste, mais en même temps, c'est complètement diffracté. Et qui plus est, en plus, il y a des jeux de dédoublement, parce qu'il y a le personnage qui est l'artiste, mais il y a Matisse qui est l'auteur et qui est artiste lui-même qui intervient. Et qui est tué à la fin du truc.
Je me rappelle plus s'il y avait vraiment écrit. Bon, bref, mais ouais,
c'est comme un corps qu'on pourrait pas recoller, quoi.
Après, quand tu lis un dossier de subvention pour une bourse que tu pourrais obtenir de Nestlé, je pense que même quand tu la lis, c'est pas juste un corps étranger que tu lis et genre tu dis genre ce n'est pas moi, je n'ai rien à voir avec ça. Déjà rien qu'en le lisant, tu as la possibilité d'y participer. Mm-hmm. Tu vois, ça, tout cet argent déteint sur nous, tu vois, et en même temps on a besoin, et en même temps tu veux essayer d'être en contrôle.
Tu veux en croquer mais pas te faire mal au ventre, quoi. Mais c'est ça, hein, on est tenu dans ce type de dilemme qui quand même... Enfin, je sais pas, moi, j'ai beaucoup de mal, par exemple.
Tu veux dire un truc, Pascal ?
Non, ça va.
Mais je pense qu'au final, juste la volonté, c'était de faire une pièce où on pourrait parler collectivement ou amener, tu vois, en tant qu'objet présenté au public, ces questions qui nous sont communes, dans la volonté aussi de que les gens s'y reconnaissent et qu'on puisse juste se marrer de ça, parce qu'en fait, quand tu parles de ces trucs-là, c'est souvent dramatique et en fait il y a quand même c'est très risible et je pense qu'on voulait ouvrir ce discours
Ouais, mais c'est une condition, tu vois, de travail effectivement, comme tu dis, qui est commune, mais qui en plus qui est pas toute jeune, quoi. Il y a déjà des ça se trouve sur Gallica, il y a un texte de Delacroix contre les concours. Tu vois, toute la question du concours, alors après qui s'est transformé, mais c'est vrai qu'il y a une filiation entre ces objets-là de demande de bourse et les concours du 19e siècle, où effectivement t'es obligé de faire rentrer un discours dans une grille qui est celle de, à l'époque de l'administration, soit impériale, soit royale, soit de la République. Quoi. Je sais pas, je pourrais pas dire précisément la date où c'est paru, mais ça pose vraiment la situation de l'Académie telle qu'elle est, elle est mise au point au XIXe siècle. Et il me semble qu'il y a, un vrai rapport d'hérédité en fait entre ces objets-là qui correspondent plus au monde libéral, c'est-à-dire que c'est pas centralisé sur une administration d'État, mais c'est des commandes privées. Tu parlais de Nestlé, et t'as tous ces groupes privés qui effectivement manipulent de l'argent pour frayer des subventions ou des résidences, parce que j'imagine que fiscalement ils trouvent un avantage et symboliquement aussi. Mais encore une fois, ça reste des et c'est là où c'est. Après, c'est là aussi, peut-être, il y a aussi une espèce de friction un peu sociale aussi entre les gens qui conçoivent ces appels à projets, parfois pour des boîtes privées, qui sont très loin de s'imaginer ce qu'est la réalité du travail artistique. Quoi.
Ouais, là, on parlait de fonds privés, mais on pourrait aussi parler des fonds publics parce qu'elles posent un certain nombre de mêmes paramètres. Mm-hmm. Notamment sur la question de la justification ou d'être clair dans la gestion des fonds, alors qu'on parle d'une œuvre d'art et que du coup c'est immédiatement antithétique dans ce que la...
Bah c'est très difficile à quantifier la production d'une œuvre d'art en fait. C'est-à-dire que si effectivement tu t'arrêtes à... ne serait-ce que la question du temps de travail, elle est indémêlable. C'est-à-dire, est-ce que tu demandes dans un budget comme celui-ci d'être rémunéré sur un temps de travail à partir de comment t'évalues un temps de travail? Est-ce que c'est un taux horaire? Est-ce que tu considères que tu travailles tout le temps? Est-ce que tu as des horaires de travail en tant qu'artiste? Et là, ça devient extrêmement difficile à quantifier quand on sait en plus qu'une œuvre d'art, elle peut être géniale et réalisée en 3 secondes, quoi. Tu vois, ça peut être 3 mois de labeur, ça peut être 3 mois de glandouille. Le résultat, ça n'influe pas sur le résultat. C'est ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas, en tout cas, on peut pas valoriser une œuvre d'art. Je pense ce qu'on avait évoqué tout à l'heure avec Simon. On peut pas. Enfin, c'est très difficile de valoriser une œuvre d'art aujourd'hui après le XXe siècle, où effectivement la question de la valeur travail a été plus ou moins critiquée dans la façon dont on peut valoriser une œuvre. Sans mettre de côté des questions d'argent, mais simplement la question du temps de travail et du travail, elle est quasiment indémêlable en fait dans ces situations-là. Et du coup. Ça devient aberrant quand on demande effectivement de quantifier, de budgétiser autrement que avec des frais de production. Et puis là, ce qui est marrant dans le texte, c'est vrai qu'à un moment l'artiste se lâche quoi sur le voyage pour voir.
Parce qu'il n'a pas le permis, du coup, il met le passage de permis dans le budget.
Il met son passage de permis dans le budget aussi, effectivement.
Ouais.
Faut joindre l'utile à l'agréable.
Qui passe après?
Je sais pas. J'ai vu Barbara Quintin traîner tout à l'heure. Barbara, si tu nous entends, rejoins-nous. Sinon, il y a des gens là qui traînent à côté. Salut Dorothée. Hein?
Viens.
Join.
T'as un micro là. Salut, ça fait.
Ça
une paye.
Salut tout le monde, je suis Dorothée.
Salut Dorothée.
Ça va?
Ben oui. Qu'est-ce que tu viens de nous raconter?
Non, mais je sais pas, je vous écoutais parler.
Ben là, t'es devant un micro, donc ouais, il faut qu'on est là pour t'écouter parler, du coup.
Ça. Non, mais c'était intéressant. Enfin, cette idée comme ça du budget.
Comment on budgétise?
Ouais, non, ou cette histoire de ce que ça crée en fait les économies, parce que je pensais à 13 et je pensais que 13 c'est un endroit qui m'est cher parce que en fait il a commencé aussi un peu comme le commissariat, qui est un espace que moi j'avais fait depuis 2006 avec 3 autres personnes et qui est passé de tas de main en main et qui en fait aujourd'hui est encore 13, tu vois. Mm-hmm. 13 ans plus tard. Et du coup, c'est cool de.
C'est poil 13 ans plus tard.
Bah ouais, 2006.
C'est 10 ans,
le commissariat.
Non, c'est 10 ans. Ah, 2006.
Le commissariat, ça a commencé en 2006. Après, on a eu ce lieu en commun. On a ouvert du coup le lieu ensemble. Et puis, on avait cette subvention du commissariat que quand le commissariat s'est arrêté, elle a été continuée dans 13 ans.
Par 13.
Fait. Et donc c'est intéressant parce que par rapport à ces trucs de dossier de subvention, moi je me rappelle le premier dossier de subvention qu'on a fait pour le commissariat, mais c'était juste hilarant.
Olga, monte.
Genre on avait aucune idée de ce qu'on était en train de faire. On l'a fait en une nuit chez moi, à quatre pattes, par terre, en fumant plein de pets. Avec Fessal, Bagriche, Mathieu Clinchard, Vincent Ganivet. Et je sais pas, c'est le premier dossier drag qu'on a fait et on avait aucune idée. On a mis du budget, mais c'était... Enfin, qu'est-ce qu'on avait comme idée de rien du tout, tu vois. C'était hyper marrant.
Et du coup
et du coup, cette subvention, elle est encore là aujourd'hui. Tu vois,
bah, c'est la même.
Ouais, c'est la D'accord. même.
Elle est tombée.
Ouais, genre, c'est rigolo, quoi, tu vois. C'est une subvention drag. Les mecs, ils ont ouvert une petite ligne de crédit. Je sais pas combien elle est aujourd'hui. Tu vois, nous, à l'époque, on a eu 5000 balles et on était tout fous, tu vois. Mais c'est marrant, quoi. De penser comment les subventions, elles font des petits, elles se répètent. C'est le même dossier, mais il n'est pas pareil. Tu vois ?
Parce que tous les ans, après, vous avez renouvelé...
Je pense, non ? C'est comme ça.
Au bout d'un moment, ça se pérennise, mais ouais, effectivement, normalement, chaque année, et la pièce parle de ça, c'est comment, pendant 5 ans, tu vois, le jour avant la deadline...
C'est la panique.
C'est la panique à bord. Et c'est le seul moment où, en fait, tu te réunis pour voir ce que tu as fait l'année... L'année passée, tu mets tout ce qu'il y a eu, quoi. Mais après, ouais.
Mais tu dois prendre un projet aussi.
Tu dis ce que t'as tes lignes, enfin, tu vois, le prévisionnel.
Mais du coup, c'est quoi, vous copiez-coller ce que vous aviez écrit l'année précédente.
Faut toujours demander plus.
Certainement.
Ce qu'on n'a jamais fait.
Mais ça, vous connaissez, les artistes aussi, faut toujours demander plus.
Peut-être.
Non, mais là, on parle de. C'est un peu différent, mais. C'est pas grand chose, tu vois. C'est juste, c'est même pas pour payer le loyer, oui. Tu vois. Et c'est un 13 a toujours accueilli, a eu un rôle, je pense, d'accueil autant qu'il a programmé ses propres événements. Et personnellement, je pense que pour le nombre de personnes qui ont pu faire des choses à 13 sur ces 10 ans, c'est pas grand chose. Quand tu vois les thunes qui sont données pour des projets supposément sociaux à gogo, et moi personnellement sur les questions des thunes privées, c'est un truc, là on en parlait, pour moi aujourd'hui ce qui m'intéresse vraiment c'est comment l'État qui donne de l'argent à la culture, comment est-ce qu'on fait le bilan de ces choses-là et comment eux ils considèrent, quels sont les jalons,
les critères
pour les ouais, mais après, une fois que les activités sont passées, tu sais, les bilans d'activité. Un bilan d'activité, c'est un terme, tu vois, d'entreprise. Comment est-ce que tu vas, c'est comme ce que je te disais tout à l'heure avec les écoles d'art, et comment tu juges la vie d'un étudiant au sein de l'école d'art. Mmh. Là, c'est un peu la même chose. Tu vois, aujourd'hui, quand tu fais des projets sociaux en tant qu'artiste pour lesquels tu es payé, à la fin, on considère que l'argent était bien utilisé parce que tu as donné tes cours toute l'année, mais de savoir si ça s'est bien passé ou non c'est là que c'est pas quantifiable. Ouais. Pour moi, la question de l'argent, tu peux toujours la caser dans des lignes, tu vois, quoi, que tu sois payé à la session ou que tu sois payé en tant qu'artiste. Mais c'est plutôt les résultats sociaux, tu vois. Comme tu disais tout à l'heure, toi, on t'a interdit de publier un bouquin que t'as réalisé, c'est une œuvre qui est censurée, tu vois, de savoir si parmi les 25 étudiants que tu as eu en primaire ou au collège pendant toute l'année, s'il y en a un qui est en fait traumatisé de l'expérience, alors qu'il y en a 24 autres qui ont trop kiffé, bah ça en fait, l'État, lui, derrière, ne fait pas le boulot, et toi derrière, t'es plus payé, t'es dans ta précarité, donc tu peux presque plus t'en occuper non plus, tu vois ce que je veux dire. Et pour moi, c'est question de thunes aujourd'hui. Dans une société qui a toujours été aidée par l'État pour le développement de la culture, rayonnement, pour le bien collectif et populaire, c'est plutôt là. C'est aujourd'hui, si l'État devait faire son propre état des lieux, comment il ferait ?
Mais tu penses que sa mission correspond véritablement à ce que tu décris ?
L'État ?
Ouais, l'État de la raison pour laquelle l'État développe.
Parce que là, tu parles de transmission, de collectivité, de choses qui sont des abstractions aussi.
Politiquement, la raison pour laquelle les arts sont développés et subventionnés, c'est parce que en tant qu'objet symbolique et populaire, ils sont considérés comme des choses pouvant développer et propager cette idée d'un état de, tu vois, de paix.
Pas partout. Il y a des tas d'États en ce moment qui sont très contents.
Pas partout, je parle d'ici. Hein.
Ici aussi, il y a une tendance à couper en général pour exactement faire le contraire de ce que tu dis. il y a justement une volonté de réduire des budgets pour justement faire en sorte que la culture se propage pas et que les gens ne travaillent pas ensemble.
Oui, il y a ça, il y a les coupes budgétaires actuelles, mais après c'est aussi de penser...
Mais après la question aussi c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin de ces subventions et qu'est-ce qu'on fait de cet argent, tu vois, et dans quel système ça s'inscrit et qu'est-ce qu'on
après
produit. Qu'est-ce qu'on produit aussi pour le...
Le problème c'est d'avoir justement une demande explicite dans le fait de délivrer cet argent, c'est-à-dire que normalement tu devrais recevoir, je sais pas, de l'argent pour la culture comme ça, sans faire de demande. Enfin, je suis un petit peu, j'exagère, je suis un peu utopiste, mais il me semble qu'effectivement, on devrait être rétribué sans avoir à en faire la demande. Il y a eu des systèmes assez marrants, alors beaucoup plus mercantiles, mais où
c'était l'État. Aussi, ça dépend simplement de la fonction de l'art dans la société.
Vas-y.
Ouais, après, voilà, là, tu te poses cette question-là. Mais moi, il y avait un système que j'avais trouvé assez amusant, donc, qui était assez mercantile, mais c'était l'État qui était acheteur, en Hollande, je pense, dans les années 80, 70, où, en gros, il y avait beaucoup d'argent qui était donné à des commissions d'achat public pour des collections publiques. Mais pour le coup, les inscriptions étaient administrativement extrêmement simples et très faciles d'accès. Du coup, tout le monde pouvait présenter une œuvre. Et du coup, en fait, il y a eu un débat autour de ça, parce qu'il y a des gens qui ont commencé à penser qu'il y avait des gens qui arnaquaient les autres, qui faisaient un peu un truc n'importe quoi, et puis qui récoltaient de la thune. Et leur œuvre était collectionnée. Alors en plus, il y avait ce truc que l'œuvre rentrait dans une collection, donc la collection pouvait être montrée, etc. Et du coup, moi, et c'était une amie artiste qui m'avait décrit ça en me disant, mais c'est juste qu'ils aient arrêté parce qu'il y avait trop de gens qui se foutaient de la gueule du monde. Et en même temps, moi, je l'arrête en lui disant que n'importe quelle œuvre d'art peut être considérée comme une escroquerie.
Si elle était méchante, je dirais que la Hollande a créé, d'ailleurs, pour ce genre de raison, beaucoup de mauvais artistes.
Non, mais surtout que la Hollande a coupé 50% de ses... Alors, il y a 4 ans, la Hollande a coupé 50% des fonds publics alloués à la culture, et ils sont vraiment dans la merde. En France, ce qui s'est passé il y a 5 ans, quand beaucoup de centres d'art ont dû fermer ou se fusionner, c'est pourquoi ? Parce qu'il y avait les municipalités qui, historiquement, donnaient de l'argent, tout d'un coup, se sont dit, mais nous, nos contribuables locaux, tu vois, c'est un peu le cliché, ne voient pas la raison pour laquelle c'est machin qui va faire son solo qui a coûté 45 000 euros, alors qu'ils, tu vois, et ils s'en foutent parce que c'était de l'art conceptuel.
Puis déjà, en France, il n'y a pas de support aux artistes, il n'y a pas de bourse pour les artistes, il n'y a pas de...
La Hollande, pendant longtemps, c'était un pays où il y avait... les artistes étaient très soutenus, quoi. C'était très soutenu, il y avait énormément de bourses, il y a des résidences qui sont prestigieuses avec énormément de moyens. C'est vrai que la plupart des amis hollandais que j'ai, à un moment, me disaient effectivement, mais à Paris, c'est dur, quoi. En Hollande, on est quand même assez protégé.
Il n'y a pas de système de soutien aux artistes, c'est un truc que les Français réclament depuis des années. Je veux dire, c'est un serpent de mer, cette idée de faire des bourses, de faire un système de créateur national. Je veux dire, même au Mexique, il y a un système de créateur national. Tu peux appliquer et genre t'as une bourse pour 5 ans renouvelable, 10 ans, etc. Et tant que t'as une carrière professionnelle et tu gagnes pas mal, hein, c'est une bonne bourse, c'est genre 20 000 pesos par mois, c'est 1 000 euros, c'est bien, quoi, tu vois.
Et du coup, c'est l'État qui décide.
Ouais, l'État.
La
et ça, bon, ce système en ce moment, il est remis en cause par le gouvernement qui d'ailleurs est un gouvernement populiste de gauche, mais c'est hyper bien ce système, tu vois. Et tu te dis, enfin, il y a plein de pays où ça existe et la France est pas ça. Pour ces artistes, enfin, c'est le
constat qu'on peut faire, c'est que effectivement, quand on voit le statut des intermittents, on est jaloux, et en même temps, les intermittents nous répondent, finalement, c'est pas non plus le génial, quoi. Mais en même temps, après, il y a aussi le statut social de l'artiste où on paye des charges à la maison des artistes sur des ventes d'œuvres d'art. Enfin, il y a aussi ce truc, c'est qu'à partir du moment où une œuvre d'art est considérée comme une marchandise, on a un statut social, alors que ça devrait être un statut social reconnu comme tel, et non pas sur une façon de mercantiliser façon, l'activité artistique.
De toute façon, ça, je pense que c'est vachement intéressant, parce que quand tu commences justement à voyager, à te rendre compte des systèmes mondiaux qui existent de soutien aux arts, en fait, c'est... Enfin, tu vois, en fait, tu te rends compte qu'il n'y a pas forcément un système qui est meilleur qu'un autre. Mais par contre, chaque système dessine en fait des contradictions, tu vois, inhérentes à chaque société dans lesquelles en fait les histoires, elles ont produit des systèmes de subventions pour les artistes, des relations au marché, des histoires de l'art, des exports, des histoires de soft power, tu vois, de capital culturel, de lien avec l'artisanat. Enfin, dans tous les pays, c'est vachement intéressant en fait, parce que chacun des systèmes, et tu peux avoir des trucs complètement opposés, tu vois, tu parles de la Hollande ou de la Belgique. Moi, ça m'a toujours choqué, comme justement dans ces pays, si tu n'as pas accès au système de soutien de l'État, les gens, ils te prennent pas pour un artiste sérieux.
D'accord.
Alors que par exemple en Colombie, il n'y a pas du tout de système d'aide de l'État, et tous les artistes, ils vont toujours te dire qu'ils sont artistes et architectes, artistes et graphistes, artistes et autre chose, et profs, ce qui leur permet en fait de se réclamer d'une pureté artistique, que leur travail n'a pas de marché, mais que tous leurs projets sont indépendants, et que c'est ça qui garantit la valeur de leur art. Tu vois, alors que si tu dis ça à un mec... Tu vois, les Flamands, ils s'enorgueillissent tous d'avoir la bourse de l'État, et c'est le stamp qui dit que c'est des artistes qui sont justement qui n'ont pas besoin d'être soutenus par le marché non plus, parce que l'État soutient leur pratique, qui est considéré comme un intérêt national, etc.
Le Québec, c'est un exemple flagrant, quoi. C'est une réflexion féministe dans les années 70 qui va dire le marché de l'art exclut, et donc on veut que des gens qui soient artistes sans avoir une prétention ou qui n'ont pas le pouvoir, tout simplement le privilège d'être inclus dans ce marché, on va leur donner la possibilité de pouvoir quand même y participer. Et ce qui s'est passé, c'est le réseau canadien des centres d'art. Et au Québec, en fait, tu veux une expo, tu envoies ton dossier à n'importe quel centre d'art et ils passent en commission. C'est comme ça que le commissariat se passe au Québec. Alors évidemment, il y a aussi les musées qui font de leur programmation, mais c'est un pilier de cette idée que tu peux vraiment vivre au milieu de nulle part, connaître son père, et que tu peux quand même être
Mais du coup, il y a un jury de sélection.
Il y a des jurys,
carrément. Ouvert.
Mais au Québec, tu vois, le marché de l'art, en réponse à ça, c'est pas une place... forte du capitalisme artistique.
Certes, mais tu vois, à mettre en parallèle effectivement des processus de légitimation étatique ou mercantile, on reste de toute façon... Alors si on peut effectivement reconnaître que l'administration d'État soit ouverte et démocratique...
Non, mais c'est une vraie question, en fait.
Parce qu'on sait très bien qu'il y a des ressorts de sélection sociale dans des machines administratives d'État. On le sait très bien que... Ne serait-ce que faire un dossier, et c'est ça qui est, pour revenir à la pièce, qui est aussi c'est aussi quelque chose, c'est pas donné à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a quand même une sélection sociale qui se fait, et quand bien même tu passerais par des réseaux d'administration d'État. Enfin, tu vois, c'est que... Dans un cas comme dans l'autre, pour moi, il me semble qu'il y a une façon de légitimer ou de différencier l'activité artistique et l'activité non artistique qui dépend de critères qui sont extérieurs à la qualité de l'artiste lui-même. Tu vois, c'est effectivement, est-ce qu'il pourrait y avoir une dictature artistique où ce sont les artistes qui décident pour les artistes ?
Non, mais c'est quoi aussi, comme tu dis, la qualité de la pièce artistique et dans quel contexte, tu vois ? Parce que justement, les contextes, ils produisent aussi des modes de production qui sont complètement différents, qui font que justement, tu vois, je sais pas, genre en Amérique latine, en ce moment, il y a pas mal d'artistes qui ont... Enfin, en ce moment, il y a beaucoup de collectifs, parce que justement, par rapport en fait à ce mode d'apparition, de fabrication d'objets, qui avait quand même beaucoup de difficultés à circuler d'un endroit à l'autre, à part dans des valises, ou en refaisant des trucs sur place, parce qu'il n'y avait jamais de pognon, il n'y a pas de transfert, il n'y a pas d'union douanière, tu vois, il y a un problème vraiment. Donc les gens, en fait, ont commencé à penser à des régimes de distribution de leur art ou à générer des objets qui étaient des plateformes pour des discussions qui pouvaient avoir lieu en fait avec les déplacements des personnes et tu vois et des symboliques qu'elles géraient aussi dans ces économies de circulation. Donc ça par exemple c'est un exemple intéressant de pratiques qui sont complètement façonnées par les policistes, tu vois en fait c'est que pour toutes ces raisons justement de structure. Comme tu dis, les retombées ou l'audit ou comment est-ce que tu définis le succès de ce genre de manifestation, c'est hyper ténu en fait, c'est vachement lié. Et du coup, c'est intéressant parce que c'est aussi quand même vachement lié à une qualité d'échange, certes un peu élitiste, de gens qui se parlent aussi entre eux, mais qui ensuite disséminent avec des modes qui sont pas mal la fête, la mode, tu vois, cette idée comme ça de se rencontrer à des moments. Et ça crée du coup en retour des objets qui, par exemple, dans un circuit, peut-être ici, serait immédiatement assimilé à du design ou de la mode, et qui sortirait complètement du champ du régime de l'art, et les gens qui se réclameraient pourraient même pas très bien légitimer qu'ils sont artistes, ou peut-être les autres leur diraient non, mais ce que tu fais, ça rentre pas dans ce truc-là, parce que comme tu dis, l'État, il a pas mis. Enfin, c'est. Alors que du coup, ça crée ces espaces où tout d'un coup, là, c'est complètement à sa place et c'est de l'art, il n'y a absolument aucun problème et cet objet, il est dans cet endroit-là.
C'est l'autonomie, tu vois, sans justification. Et moi, je vais arrêter de parler parce que je crois que j'ai trop parlé, mais juste un dernier truc, pour moi, c'est la question de l'art amateur. Cette place-là, elle est vraiment dure
pour les artistes amateurs, tu vois, des artistes amateurs, je sais pas, qui, tu vois, qui font de la peinture comme, tu vois, les artistes peintres au couteau, tu vois, que tu rencontres, tu vois, dans des villes en France. Pour eux, c'est très dur parce qu'ils sont face à des institutions qui les légitiment à aucun moment, tu vois. Et du coup, pour moi, c'est plutôt cette question-là, in fine, et que le Québec peut-être a commencé à... Je ne défendais pas, j'expliquais juste, mais c'est comment tu donnes une place aux arts amateurs. Et il y en a, tu vois, il y a des lieux qui existent, mais en fait, elles ne font pas partie de la discussion, je trouve, avec ce que toi, en tant qu'artiste, qui est un peu obligé de te battre pour une professionnalisation... à quel moment ça peut se rencontrer, tu vois, et comment tu
moi j'ai l'impression de le vivre, tu vois. Tu parlais de profils de gens qui ont un métier pour vivre et pour essayer d'assumer une activité artistique. Moi c'est mon cas, c'est mon cas. Et pour le coup, moi j'ai parfois l'impression, hein, même à un moment je voulais me faire passer pour un artiste brut, quoi, parce que tu vois, je faisais de la manutention, je faisais des chantiers.
Tu peux faire des dossiers de subvention sur un
et je voulais inventer les artistes. Je voulais cacher le fait que j'ai fait des études artistiques, parce que du coup elles me servaient à strictement à rien, si ce n'est que de buller chez moi et de rêver à une activité possible. Donc du coup il y a quand même cette espèce de double identité qui fait que quelque part, il y a une forme d'amateurisme aussi. Enfin, tu vois, quand tu te situes dans cette espèce d'avoir le cul entre deux chaises, il y a un moment où, et puis il y a beaucoup de gens aussi, tu vois, qui arrivent pas à joindre les deux bouts, et qui se perdent dans des activités vivrières, qui trouvent pas le temps.
Ça aussi, c'est un tabou, tu vois. Je pense, tu vois, c'est comme tu dis, ce préjugé qu'on a encore tu vois, en France, moi j'ai quand même l'impression que, ouais, tu vois, si tu vis pas de ton truc, que t'es régisseur, que t'es nanani nanana, ouais, il y a toujours un peu l'espèce de petit mépris entre les artistes qui, eux, bon, ça va, tu vois. Ils gagnent leur vie que ça, et puis t'es là, mais ça va.
Il y a une violence de classe, ça c'est sûr. Mais en même temps, c'est juste que, effectivement, tu vois, quand tu rentres dans la vie et que t'as besoin de thunes.
C'est normal.
Après, c'est une question. Mais après, il y a une question de temps aussi, tu vois. Par exemple, il y a des gens ce soir qui n'ont pas pu venir parce qu'ils bossaient. Tu vois, c'est. Mais en même temps, effectivement, c'est de se dire qu'on est dans une figure de. Ouais, d'une forme de bohème qui a pas beaucoup évolué, en fait.
Ouais, mais on sait bien que c'est pas vrai. Enfin, tu vois, la bohème, on se rend quand même bien compte qu'on est tous en train de charbonner comme des malades, que tout le monde est précaire, que tu vois.
Ouais, c'est
on,
ça.
On
c'est ce que j'appelle ça. C'est pas une bohème. C'est pas une bohème.
Oui, voilà, c'est ça. C'est pas un idéal.
Paresseuse. Non, c'est moi ce que j'entends par bohème, c'est plutôt une masse de gens dans la population qui ont eu effectivement un accès aux études qui a correspondu à un moment où peut-être les parents ont gagné plus d'argent dans les années 70-80, où il y avait plus de travail, et qui pour le coup ont pu se payer des études parce que les études coûtaient moins cher, etc., mais qui arrivent dans une situation où effectivement la violence de classe elle revient parce que bah, quand tu finis tes études t'as besoin de bosser, alors qu'il y en a d'autres qui n'en ont pas besoin, par exemple. Tu vois, c'est pas pour juger qui que ce soit, mais simplement pour quand je parle de bohème, c'est de parler d'une classe de gens qui ont tous les atouts et tous les moyens, tout le background pour être artiste, mais qui ne trouvent pas le temps d'exercer une activité artistique. C'est vraiment une façon de vivre le travail qui est
mais ça, c'est marrant, parce
qui est très lourde et qui est moi qui je pense à concerne pas mal de gens, en fait.
Bah, c'est marrant parce qu'on a eu une discussion justement là-dessus la dernière fois avec Laetitia. Qui... Non bon, quoi, tu me parlais.
Ouais.
Salut Laetitia.
Salut
Nelson.
Okay. On parlait de cette histoire aussi de. Hein? Que t'écrivais plus vite.
Ouais, non, mais enfin, pour revenir en fait sur ce truc, je crois qu'il y a un vrai tabou aussi sur le plaisir, en fait, qui est retransmis par, en fait, même si les gens travaillent, galèrent en travaillant, sont artistes et tout, mais il y a un vrai plaisir affiché et assumé, enfin, une espèce de. Moi, en étant passé de l'autre côté, justement, en 35 heures et de voir ça d'une autre manière, en fait, je vois cette jalousie du plaisir de travail, en fait, qui n'est pas en fait permis dans un travail alimentaire ou comme ça, et ça c'est un truc qui se paye très très cher, enfin toi justement en jalousie, quoi, enfin
ouais, je suis d'accord, bien sûr. C'est souvent pas jaloux du succès
d'autrui, mais plutôt du temps qui peut passer, c'est-à-dire absolument tout son temps. À
demander ?
Non, ouais, à être,
ouais,
à être,
parce que c'est
à être intérieur, tu vois.
C'est une histoire de jalousie.
Non, mais en fait, je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui travaillent pour d'autres, en fait, et que quand tu travailles pour toi et que tu prends du plaisir à ce que tu fais, en fait, ça vaut de l'or, en fait. Et du coup, les gens qui travaillent pas pour eux se disent que voilà, ça vaut de l'or et que tu n'as pas à te plaindre, en fait, tu vois, de.
Après, il y a des gens qui sont très heureux de travailler pour d'autres aussi.
Oui, bien sûr. Mais.
Tu vois, il ne faut pas non plus mettre sur un piédestal l'activité artistique et considérer en plus comme une activité. Isolé, solitaire.
Non, mais c'est important, je pense, de parler de ces sentiments, parce que je trouve que dans un système artistique où la représentation est souvent le seul endroit où tu vas t'exprimer, parce que t'as intérêt à t'exprimer bien pour que tu vois ça soit bien vu et tu vois que ta pièce soit appréciée. Et ben en fait, ces sentiments-là qui peuvent être liés à la dureté d'arriver à travailler sont pas des choses dont on parle vraiment, tu vois, psychologiquement. Tu vas en parler à ton psy, tu vas en parler
Là on en parle, mais j'en parle régulièrement avec mes potes, quoi.
Ouais, t'en parles avec tes potes,
enfin les gens qui sont dans la même situation
là, tu vois, d'une je sais pas comment,
psycho quoi.
Ouais, c'est toi, je parlais de l'idée de groupe de parole pour moi c'est c'est vrai, il y a un peu des tabous, tu vois.
Psychanalyse en direct.
Je sais pas si moi je vois comme des tabous.
Moi je t'ai envoyé un SMS, j'ai pas entendu le son du SMS. J'ai le texte de Georgia là.
Ouais, tu l'as sur ton téléphone.
Ouais. Et donc, je peux le lire, il n'est pas très long, mais je ne sais pas ce que tu as prévu après.
Moi, j'ai fait une lecture d'un texte qu'elle m'a envoyé il y a quelques heures. Alors, tu peux le relire si tu veux, mais.
Ah, tu l'as lu déjà ?
Moi, j'ai un truc qui parle de. Qui parle de porc, de. C'est ça que tu as reçu ?
Ouais.
Non, merci. Oui, bah,
ah,
ouais, je l'ai lu. Et du coup, bah, t'es bien en retard.
Bravo. Suis bien à la bourre.
Et du coup, j'ai fait la lecture de ton texte, que je trouve très beau. J'ai eu beaucoup de plaisir à le lire. Je pense que les gens étaient plutôt joyeux. C'était vraiment, vraiment un chouette moment. Alors, j'ai un peu cafouillé à certains endroits, parce qu'il est quand même. Il est coriace, quoi. Non, c'était cool. Mais du coup, alors, je sais pas si t'as envie de lire. Moi, je peux te donner d'autres textes, par contre.
Ah ouais?
Alors, il y a justement. Alors, je me suis foutu de lui pendant toute l'émission. C'est Clément Rodzilski, qui est à la bourre depuis plusieurs heures, plusieurs jours, qui m'a envoyé un texte et auquel j'ai fait croire que j'avais rien reçu. Et donc, j'ai reçu plein d'emails très, très tendus de ce pauvre Clément à qui j'ai joué un très mauvais tour. Et du coup, peut-être qu'on va le. On va arrêter de le torturer et puis tu peux lire son texte.
Ouais.
Et parce qu'il voulait en plus que ce soit une fille qui dise le texte en question. Alors je vais te l'afficher. Par contre, faut que tu prennes la place. Mais attends, je suis en train de faire un petit truc, donc je vais viens, hop là, je te fais de la place.
Oh, pardon, on roule là. Emo et Cam 4.
Ouais, Cam 4.
Cam 4.
Cam 4.
Bah, Cam 4, attends, c'est en français. Ça, je lis pas. Là, c'est bon. Ouais. Donc, je lis le titre. Donc, le texte s'appelle Emo et Cam 4. Entre parenthèses, flac au pluriel, rien. Donc je n'ai absolument pas lu le texte avant, donc ça va être un peu improvisé. C'est précipiter les choses qu'il faut pour... Je peux considérer que tout ce que j'écris maintenant est valable. Évidemment, non. Et marche arrière, non. Plus tard, dans quelques lignes, trois textes pas finis, trop courts, mais qui, composés ensemble, donnent ce que vous allez entendre. Pour fournir en quantité suffisante, j'ai ajouté à ce que je croyais alors être un texte assez conséquent, finalement non, de choses inachevées, elles aussi, mais qui, mises bout à bout, font état de quelque chose. Cependant, en attendant cela, en descendant les escaliers, mais hier je descendais en imaginer un mot écrit sur une cigarette, et à qui les consomme à mesure de ce que qui les consomme, ils deviennent des poèmes. Quelque chose en eux se serait transformé. Par exemple, chaise, chais, chais, chat, ch, brumisateur, brumisateux, brumisate, brumisa, brumisa, brumise, brumi, brume, bru, br, b. Fontaine, fontaine, fontais, fonta, fonte, font, faux, f, débile, débile.
Attends, je suis... Look.
Débit, deb, de, dé. Brumisatrice, brumisatrique. Brumisatri, brumisâtre, brumisat, brumisa, brumise, brumi, brume, bru, br, b. Café, caf, ca, c. J'en ai mille dans mon cabas. Bobine, bobine, bobine de cinéma qui se déroule, descend la colline, finit à l'eau. Émo et camphore. Il est minuit. J'entre dans ma chambre, j'allume la lampe de chevet dont je dois changer l'ampoule. La lumière est trop faible. L'écran noir éteint de mon ordinateur posé sur mon bureau reflète les alentours, le lit défait, les vêtements éparpillés sur lui. Chemise en soie, jupe, pull, nous sommes en hiver, sous-vêtements, bas. Sur le plancher, quelques livres, câbles, etc. Plus tard, je ferai un meilleur inventaire. Je tire les draps, je pousse les objets, je range un peu. Enfin, je branche l'ordinateur, l'allume, mais il peine, crachote, s'illumine enfin. J'inscris mon mot de passe, c'est un secret bien évidemment, mais il n'y a aucune raison qu'ici, je ne le dise pas. Le voici. Ok. par lettre ou par...
Je sais pas.
Donc je vais vous lire le mot de passe de Clément Rodzinski. Ui gu cu boabs du. Je vais pas y arriver. Yul ilu sibu fu. Plein de lettres, je vais pas pouvoir tout lire. Je vais lire les dernières. Il y en a un petit paquet, peut-être 1000. Ça se termine par B. J'allume la webcam, mais je continue à m'affairer par ailleurs. Le cadre reste très approximatif. Pour le moment, je ne m'en préoccupe pas. J'entrerai plus tard dans le champ et j'arrangerai après tout cela. En attendant, je retire mes habits du jour et enfile une combinaison que je décrirai plus tard. Je récupère quelques accessoires éparpillés dans l'appartement. Mon loup, des gels, entre autres choses. De l'autre côté de l'écran, ailleurs dans le monde, trois habitués sont déjà là, fidèles au rendez-vous quotidien que j'ai fixé et auquel je m'astreins depuis déjà plusieurs mois. Ils m'entendent m'affairer sans doute, patientent face à mon coin de chambre et signalent leur présence en me disant bonjour via le tchou-tchat. Mon lit défait, mes draps blancs, ma peluche, la guirlande lumineuse, voilà ce qu'ils aperçoivent en m'attendant. Quand je m'installe face à leur... À l'ordi flex, c'est d'abord pour répondre à un dernier mail qui ne pouvait plus attendre. Je continue un instant mes affaires courantes, sans accorder d'importance à ceux qui me regardent, s'impatientent peut-être, me désirent. C'est bien là tout un aspect du jeu. Que je puisse rester indifférente participe beaucoup au désir. Le mien est celui qui grandit en eux. La ligne de séparation entre mon image publique et ma vie privée existe assez peu. Elle existe bien sûr et sur de multiples points. Mais je développerai ce point-là plus tard. Et il m'arrive, comme ici maintenant, de me montrer m'affairer à autre chose que ce qui devait être d'abord mon rôle ici. Mon rôle ici. Mais vous l'aurez deviné, me déshabiller, me caresser, et plus encore. Ce que j'exhibe de moi, c'est le prolongement de mon existence quotidienne. Je ne fais rien devant la caméra que je ne ferais pas dans un cadre privé. Ceci étant dit, l'histoire que vous êtes en train de lire, d'entendre, montrera que sur ce point, je n'avais pas tout à fait raison. Ils sont maintenant une dizaine. Je ne leur prête toujours pas beaucoup d'attention pour le moment. Je sais qu'ils sont là, je serai à eux tout entière, mais pas tout de suite. Ce n'est pas de l'arrogance de ma part. À chacun d'eux, plus tard, je répondrai, saluerai chacun d'eux. J'ai répondu à ce message important, je cherche maintenant une musique. Ce message, quel était-il ? Je devais m'assurer que ma banque, qui avait perdu un chèque et qui m'était adressée, avait bien fait le remboursement. Quelle musique mettre ? Je porte un t-shirt ample, mais chacun sait bien ici que je vais finir par l'ôter. Ce que je porte en dessous, je l'ai choisi avec soin. Je le dévoilerai plus tard à mes viewers. Et je tâcherai à vous, amis, lectrices, auditrices, lectrices, lecteurs, de le décrire de façon la plus précise, la plus juste, la plus excitante. À vous encore, lectrices, lecteurs, auditrices, auditeurs de 2019, il convient de signaler que les corps ont changé. Nous ne sommes plus en 2019, nous sommes bien des siècles plus tard. Et de nouveaux appendices, de nouveaux orifices se sont ajoutés à ce que vous connaissez sous le nom de corps. Je ne m'attarde pas sur les raisons qui ont mené à cela, elles sont le fruit d'un certain nombre de progrès et de troubles. Cela s'est fait de façon relativement progressive, mais des événements terribles, de la nature parfois, de l'homme contre l'homme lui-même souvent, ont pu précipiter ces transformations. Ces corps changés ont entraîné de nouveaux plaisirs, les désirs se sont multipliés, le continent de la luxure est plus vaste encore qu'il n'était. Les déviances nouvelles sont étonnantes. Les perversions sont folles. Elles me rendent folle. C'est une galaxie incroyable. Les zones érogènes se sont multipliées. Ce qui pouvait n'être alors que des suppositions théoriques s'est révélé exister.
Tu veux de l'eau ?
Dans mon HGFDS CDFG KIFQIS GVUY c'est je glissement et c'est délicieux. Je caresse mon je jouis tendrement. Je brûle dans mon trou YG. C'est le mot de passe à nouveau. Je ne suis pas en mesure de poursuivre et je passe à autre chose. La peinture, la porte et le tambour. La peinture est inscrite dans une mécanique qui l'entraîne dans un mouvement qui la révèle différente chaque fois. Bien sûr, elle reste identique. Mais la sorte d'hologramme que je suis ne cesse de reconsidérer la distance qui me sépare d'elle. Je dis la peinture, la porte et le tambour. La porte et le tambour sont une même seule chose. C'est d'une porte-tambour dont je parle. À la peinture se superpose le reflet de la ville, les buildings, les passants. Je la vois depuis dehors et sur elle, tout s'anime. C'est un écran de cinéma. Où je suis, dehors, à la rue, je suis emportée dans une frénésie qui n'est pas celle du tableau. Je ne partage pas le même temps qu'elle. Pour elle, tout est arrêté. Elle ne s'inquiète de rien. Que les passants, les travailleurs qui traversent le bâtiment ne lui accordent aucune attention, ce n'est en rien un souci pour elle. Il y a quatre temps. Celui où je quitte la rue et entre dans le bâtiment, qui est celui où je passe de dehors à dedans. Le temps dans lequel je suis dans le bâtiment et où je partage le même espace que la peinture. Puis, celui où je repars et où je tourne le dos au tableau. Enfin, celui qui m'éloigne tout à fait d'elle, de la peinture, retournant à d'autres occupations. Cependant, comment faire en sorte que on comprendra à cet endroit-là que la peinture, ainsi se produit un dispositif de fa, au passant qui passe, quelque chose surgit depuis l'obscurité, que c'est là un procédé analogique de projection des films, roue des images, c'est dehors et c'est dedans. C'est une spirale qui négocie sans cesse. Qui je suis et qui tu es. Je peux comprendre que tout cela est confus, mais je tâcherai plus tard de tirer mieux les choses au clair. Je termine ici avec le plongeur de Bouligny, et je suis ravie de l'évoquer ici. Voyez-vous de qui je parle ? Ce plongeur qui éternellement plonge dans une eau inexistante boulevard Saint-Michel à Paris, en vitrine dans le magasin Bouligny. Une nuit d'insomnie, lors d'un été très chaud, je quittais ma mansarde. Toute la journée, elle avait conservé la chaleur et l'air y était presque irrespirable. Il ne m'était pas possible de trouver le sommeil. Dans mon lit, je tournais. À la chaleur s'ajoutaient d'autres tracas. Mon travail me déplaisait et si je ne voulais pas devenir fou, il fallait que je démissionne. Ma situation amoureuse partait à volo. Je sentais que j'aimais tant s'éloigner peu à peu de moi. Plus tôt dans la soirée, j'avais cherché à la joindre, mais sans y parvenir. J'étais encombrée de 1000 pensées pénibles. Pour ne pas étouffer, je quittais mon minuscule logis. Je descendais l'escalier misérable où je vis passer un rat. D'un coup d'épaule, j'ouvrais la porte. Depuis plusieurs mois, il fallait la forcer pour espérer sortir, et je sentais dans le haut de mon corps une douleur qui grandissait de jour en jour. Minuit était passé, j'entrais dans la ville où la chaleur était plus supportable. Je longeais les grilles du jardin des Tuileries, je devinais la fontaine, je tendais l'oreille et j'entendais le roulement léger de l'eau. Il me semblait voir des ombres aller et venir dans ce théâtre nocturne. Aux commandes, le vent chaud qui fait frémir les feuillages des arbres et des arbustes. Etc, etc. Je m'arrête là. Je dévoile rapidement ce qui se passe cette nuit-là. Notre héros semble entendre des voix. C'est le plongeur de Bouligny qui parle. Au fil de ses excursions nocturnes, il se révélera un confident pour notre héros. Le plongeur de Bouligny. Où plonge-t-il? Dans quelle eau glacée? Depuis quelle île? Depuis quel haut sommet? Fuyant et immobile. Lui, entier, étiré. Miroir et projectile. Je vois dans ses reflets, moi changé en fossile.
Un morceau de Guillaume Durieux, accompagné par Nelson Paviani-Leboeuf au gong.
Thank you.
Alors, tu vois, salut Bruno, merci. J'ai pour instruction d'envoyer la vidéo à Pascaline via Messenger. C'est toi, ce sera donc elle qui te montrera Tien Nok pour ce poème improvisé au regard. Merci pour la bière et les jolies paroles. Godspeed, comme on dit.
Un Messenger, ça.
Pardon ? Tu quoi ? Ah oui, on nous entend pas là ? Ah non, on n'a pas entendu le... Ça va. Ah d'accord, bah je vais le relire.
C'est
alors.
Une vidéo qu'on a fait. J'ai parlé pour rien.
Et bah alors, parce que le...
Alors j'ai parlé pour rien.
Hein?
J'ai parlé pour rien.
Bah oui, je crois qu'il t'a bien eu. Ok, pas de soucis. Donc du coup, ouais, on est un petit peu embêté. Il y avait une histoire de vidéo.
On peut brancher mon téléphone?
Non, alors apparemment, c'est un protocole assez complexe puisqu'il avait dépêché cette chère Alice en compagnie de son téléphone qui lui-même avait cette vidéo. Elle devait me le passer son téléphone, je devais regarder, je dois, selon le protocole, regarder l'image et la décrire au micro. Mais du coup, elle ne pouvait pas rester. Et du coup, elle m'a envoyé ce message.
Donc, je te l'ai envoyé à
Et donc, toi, tu l'as.
Donc, je te la transfère ?
Bah, soit tu... Bah, moi, je n'ai pas ces conneries-là, donc je vais prendre ton téléphone et puis... Alors... Il faut réappuyer sur le truc pour... Attends, mais laisse-moi le temps de me reposer.
Je sais ce qu'il va faire.
Tu sais ce qu'il va faire?
Il va twerker dans sa chambre.
Mais non, on va lancer les paris. Bon, écoute, je vais... On écoute un petit peu Nelson, ouais. Pas Vianney le bœuf.
Bravo! Merci beaucoup, Nelson, pas Vianney le bœuf. Mais si tu veux, tu peux le garder, le maillot. Ouais. Tu peux le garder pour... Bah, tu peux jouer avec. Tu vas voir ta mère? Elle est en bas, je crois, t'attends. Va lui faire un bisou. Ouais, tu peux le garder. Je te le prête. Hein? Bah tout à l'heure, je descendrai le récupérer. Mais tu me le bousilles pas, hein. Alors. Donc il faut saisir le code.
0511. C'est mon anniversaire.
Oh. Alors, attends, laisse-moi regarder, parce que j'ai des pauvres yeux. Donc, je vois un jeune homme, un t-shirt jaune, il porte une casquette. Il est cadré au niveau du tronc, on voit légèrement sa cuisse droite. Et puis, au fond, il y a, je sais pas, une espèce de matelas conditionné dans du plastique, peut-être, et puis une fresque. À l'encre noire sur un mur blanc. Ça ressemble à quelque chose fait au pinceau ou peut-être quelque chose qui est une espèce de transfert, une image un peu industrielle, je ne sais pas trop. C'est la première image que je vois. Il y a une lumière assez contrastée. On sent qu'il est dans le noir et qu'il y a une source lumineuse assez faible qui est orientée sur lui. Bon, puis là, il est pris dans le mouvement. Je pense que si j'appuie sur play, il va secouer dans tous les sens. Alors j'appuie sur play. Il se lève et il nous montre son cul, il twerk. Effectivement, Pascaline, tu as tout bon. Il twerk en peignant sur le mur. C'est-à-dire que au premier plan, on voit son cul qui trémousse au rythme de la musique, mais... Au fond de l'image, en fait, sa main se pose sur le mur pour exécuter cette fresque. Alors au pinceau, au feu, je sais pas trop. Puis il regarde la caméra, il se marre. Et il a un Lacoste, ce qui est magnifique. Merci, Nok, pour cette très belle vidéo. Tu twerkes très bien. Et l'image était trop petite sur ce téléphone pour que je puisse juger de la qualité de la fresque. Mais on s'est bien marré. Merci beaucoup. Merci, Pascaline. Bravo. Guillaume, tu veux papoter avec nous, non? Je sais pas, il y a Simon Bergala qui est dans les parages aussi, si quelqu'un peut aller le chercher. Et si vous croisez Barbara Quintin par hasard. Elle n'est pas là du tout? Ah, il m'a semblé l'avoir vue, tu vois, j'ai eu une hallucination. Elle est venue? Cool.
Vas-y.
Ah ben allez, voilà. Je vous attends, les gars.
On est là, papa.
Vous êtes en retard ou quoi?
On est là, Daddy.
Alors, salut Simon.
Moi, je fais de la batterie.
Salut.
Merci Simon.
Super Simon, au top. Merci pour la latence. J'ai plus de batterie, t'as un chargeur? Enfin, j'ai mon chargeur.
Bah, il y a ça. Si ça peut.
Ah non, moi, c'est une nouvelle génération. C'est pas grave, on va aller sur le tien, non?
Bah vas-y, écoute, je te mets sur YouTube.
Vas-y.
I love you.
chances a new beginning. The horizon leans forward, offering you space to place new steps of change. We'll be right back.
voyo. Si diabla de voyo. Si diabla de voyo. Ces messieurs criminels n'ont pas qu'à jouer. Si diabla de voyo. Si diabla de voyo. Si diabla de voyo. Ces messieurs criminels n'ont pas qu'à jouer. C'est nom blanc à dédoubler. C'est nom blanc à dédoubler. C'est nom blanc à dédoubler. C'est messieurs criminels n'ont pas qu'à jouer. C'est nom blanc à dédoubler. C'est nom blanc à dédoubler. C'est nom blanc à dédoubler. C'est messieurs criminels n'ont pas qu'à jouer. L'horizon n'est pas facile. L'horizon n'est pas facile. L'horizon n'est pas facile. C'est messieurs criminels n'ont pas qu'à jouer. L'horizon n'est pas facile. L'horizon n'est pas facile. L'horizon n'est pas facile. Messieurs criminels n'ont pas qu'à jouer. Résignez, maman, c'est les mots, maman. Pensez à maman. Messieurs criminels n'ont pas qu'à jouer. Résignez, maman, c'est les mots, maman. Pensez à maman. Messieurs criminels n'ont pas qu'à jouer. Résignez, maman, c'est les mots, maman. Pensez à maman. Messieurs criminels n'ont pas qu'à jouer. Résignez, maman, c'est les mots. C'est nom blanc à dédoublé, c'est nom blanc à dédoublé, c'est nom blanc à dédoublé, c'est messieurs criminels n'ont pas qu'à jouer. C'est nom blanc à dédoublé, c'est nom blanc à dédoublé, c'est nom blanc à dédoublé, c'est messieurs criminels n'ont pas qu'à jouer. C'est nom blanc crié dim dim, c'est nom blanc crié dim dim. C'est nom blanc crié dim dim, c'est messieurs criminels n'ont pas qu'à jouer. C'est nom blanc crié dim dim. C'est nom blanc crié dim dim. C'est nom blanc crié dim dim. C'est messieurs criminels n'ont pas qu'à jouer. Résignez, maman, c'est les mots, maman. Pensez à maman. C'est messieurs criminels n'ont pas qu'à jouer. Résignez, maman, c'est les mots. Capote bonda e capiche chiao, capite capiche chiao, capiche chiao, capiche chiao. Capote bonda e capiche chiao, capote bonda e capiche chiao, capote bonda e capiche chiao. Capote bonda e capiche chiao, capiche chiao, capiche chiao. Capote bonda e capiche chiao, capiche chiao, capiche chiao. Capote bonda e capiche chiao, capiche chiao, capiche chiao. Chebe chiao, capiche chiao, chebe chiao, capiche chiao. Chebe chiao, capiche chiao, capiche chiao. Yeah, we got pitches, we got pitches, yeah, we got pitches, we got pitches, yeah, we got pitches, yeah. Out of the bond, I got pitches, yeah. Put your hand in the middle, got pitches, yeah. Give me two, yeah, we got pitches, yeah. Give me two, yeah, we got pitches, yeah. We got pitches, yeah, we got pitches, yeah. Got pitches, yeah, we got pitches, yeah. We 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 got pitches, yeah, we got pitches, yeah. Out of the bond, I got pitches, yeah. Out of the bond, I got pitches, yeah. Put your hand in the C'est un bout de bonda et capiche, monsieur criminel. Il dit m'bauba, monsieur criminel. Il dit m'bauba, capiche, mon de baba. J'ai mis l'homme à ma droite, j'ai mis l'homme à ma gauche, j'ai mis l'homme à ma droite. Piche chi ya ga 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 piche chi ya piche chi ya ga piche chi ya ga piche chi ya ga piche chi.
Ah d'accord. J'avais pas vu. Allez par. Ah vous partez. Salut Laetitia. Bisous.
National de la mort. En passant aussi les morts ni le souvenir, ils ont passé par le chemin de la vie, mais moi et peu où nous sommes, nous peut passer par le chemin de la mort.
Parce que là, je crois qu'on
va. Essaye voir.
Julien, on entend ? Ouais ? Ok.
Du coup, moi, j'ai plus le son sur mon ordi.
Passer quand même, passer nous qu'à passer, passer en l'été.
Du coup, après le morceau, je te fais la cam.
Ok,
baiser pensel saison. Bef la bousin la tchè, mouche la rapiche fort. Et il panie saison. Avant les arrivées, à nous danser les lèvres. Ah wow!
Just give me just one more hit. Là, je suis sur les deux, je suis sur
la software roll.
J'utilise VLC. VLC.
Non, mais autrement, Virtual DJ, tu utilises la software roll. Non.
Ça fait
qui est blow en fait.
Ah, ok, bon. Bah, j'ai fermé du coup.
Ce câble, il est bien.
Ouais.
Ça m'a éteint l'ordinateur. Dis donc, ton câble, il a éteint mon ordinateur.
get me on the knee, begged for me to be free. Healthy. She pushed me on the floor to teach me how to fall, to save me, to view the wrestle close. Feels deeper than the walls.
Crasse velue, organe chat, papier tout nu,
chaise lame, corpulente, verte femme, fausse mante, bure d'or, d'argent chose, double mort, plâtre os, œil couchant, maison sèche, paysan, acre pêche, dragon, parapet, mousson, balayé, carton nom, sport pidi, signe typhon, harmonie.
Ben, denk, adam, itch, adam, adam, oi. Shout out to all of my thugs, all of my niggas locked in. Shout out to my thugs, yeah.
Shorty fell in love with a hustler. Shorty fell in love with a G. Honey wanna hang with the brothers. And she always down for the tease. All the honeys on my watch. With all the niggas on my croc. You shocked. Every time we come around, the girls wanna hang around. Drop another lyric, cause every nigga needs a gimmick. Gimmick, gimmick, gimmick. Raise your lighters up in the sky. If you wanna ask me why, why? Everybody's here when I get it, but ain't nobody here when I hit it. Forget it. Mm-hmm.
Ali Patrick, c'est...
Yeah. What? Nah. La, la. La, la.
Don't you wanna go to four corners? Don't you wanna take a trip with the four corner hustlers?
Don't you see 10 water men deep? Now we get what it takes. Cause I'm part of the folk on the family. Yeah, I'm a little for them hoes making amends and all the bitches not to see. If I die, I'm going straight to die. If I put one in this pit, then one of my niggas rolling up a blunt. Staying hat is a must. Keeping a motherfucking blunt. Having these bitches and breaking them down when I'm hat is here. Don't make me clap. Drinking on some Alizé and sipping on some fucking crap. Bitches coming up to me, talking about my brown ass. They start to faint, but getting pimped in the fucking meanwhile. D is standing for a dog, and no, it's standing for official. T is standing for the G and me. I'm pimping the ditches that come and clean. Bigger four corners and casting your check. Ain't guess the one of which hoe is this. Guess you recognize this word I said. I'm a player, and then I'll leave you dead.
Don't you wanna go to those four corners? Don't you wanna see what four corners look like? Don't you wanna go to four corner hustlers? Pretty boy Mac, Bobo G.
Getting me weak, then I lick my car, and it's just a naked clank. Images run through my family tree. I'm so sweet, but it is balling when you give up your teeth. Here for corners has hair, and you know I'm dressed to kill. Holler at another beast, with a fresh day bun on here. Guess who say, says they quick. 10 want to make full of him. Sweet as the world, trying to go to but this black and pretty, I'm sick. So impressed, leave my sins in a fucking rope next. Cast my six, time for six, then I go and take a seat. Open up my booty teeth, while I'm on the toilet stool. Took a lick, after I see, then I down and get rid of tea. Suck my toe, bubble the hoe, even a black guy for a fat hoe. You wanna fuck, first you suck, it's my way or no way, hoe.
Don't you wanna go to four corners with Tommy Ryan?
Thank you.
ça rend le roux. Joue ta on se aimait. Pareil, pile et des virages. Ça vous m'aide, œil, ma femme. Où feu joue Raoul, rap et meurt et fendit ce jeu. Annie F, russe et là où veut je joue. J'ai l'outre, Annie F, russe et là où veut je joue. J'ai l'outre nu. Alors gravé en lui, feu, j'aimerais la gueule. Même mal rouge, jouté, ni tour, mais mal rouge, outé le paré pile et des virages. Oh, vous m'aide en tordant. Repasse où les braves passent au route en nuit.
T'avais juste les textes. Il n'y avait pas les...
Les meurs et vendit ce jeu d'âne. Mort peu chute. J'ai dit peu et meurs. Vendit ce jeu d'âne. Mort peu chute. J'ai dit peu. Annie, Ève, Russell, là où veux je joue. J'ai roux, j'ai l'outre
russe.
Sur des sites de Ross à lèvres rudesse. Ose dire pas nu. Allant braver en nu. Feu, j'ai rôde en muche. Oeil, ma femme, à où veux joue. Raoul, rap, Annie, Ève, Russell, là où veux je joue. J'ai l'outre rôde en muche. Ré, la gueule, même mal rouge ou des nuls. Allant draguer en mu feu, j'ai, aimerais, vendit ce jeu, ni tout, remet mal, rouge, out, russe, su, décide, ross, anem, rudesse, 11, ir, pal, lu. Andrew, shoot, Annie, F, russe, et là, où veut, je joue, j'ai l'outre, rôde, en muche, rate, il, le, barré, pile, et dévie, rase, oh, vous, n'aide, œil, le, joue, fou, Annie, F, russe, et là, où veut, je joue, j'ai
La marijuana est bonne.
bonne à fumer, la MDMA. La MDMA me fait aller vite, la marijuana est bonne à fumer, le hashish me fait dormir, le crack m'a rendu mi-homme, mi-morcil, amphétamine, agit plus et qu'elle est mauvaise, ma péruvienne est trop pure pour être sniffée, tabac sec juste pour rouler, quand je sniffe ma cocaïne, mon cœur s'emballe, l'amnésia est la meilleure. La marijuana est bonne à fumer. Le hashish me fait dormir, le hashish me fait dormir. Si l'amphétamine agit plus, c'est qu'elle est mauvaise. Mon corps ne supporte plus l'opium. Le crack m'a rendu mi-homme, mi-mort. L'écaille de poisson vient de Medellin. L'amnésia est la meilleure herbe. La marijuana est bonne à fumer. L'héroïne me détruit petit à petit. Mon corps ne supporte plus l'opium. La marijuana est bonne à fumer. Le hashish me fait dormir, Subutex drogue des pauvres. La marijuana est bonne à fumer. La MDMA me fait aller vite. Si l'amphétamine agit plus, c'est qu'elle est mauvaise. Et le hashish me fait dormir, la marijuana est bonne. Bonne à fumer. Le hashish me fait dormir. Je vois des dragons quand je touche un ecstasy. Je m'endors sur un nuage cristal. L'héroïne me détruit petit.
Give me brains, and they say that's why we hold them. Send me four wheel and roll over the whole building. Chrome killing them, 20 gets is the whole deal with it. I'm so ill with it, so deal with it. I'll be potted out, without a doubt. Ha, spot them out, wallet out, we wildin' out. Ladies, let me see you do it like, you look at me. Yeah, look at you, feel it. Yeah. Look at me. I'm seeing you. Yeah. Look at you. You're doing it. Look at me. Do it. Look at you. Do it. Look at me. Do it. Look at you. Do it. Look at me. You looking good. Look at you. I'm seeing you. Look at me. Do it. Look at you. Do it. Look at me. Do it. Look at you. Do it. Look at me. Come on. Look at you. Check it out. Look at you. Look at me. Look at you. Yeah, come on. This is for my bitches with cars of their own. This is for my niggas with the bars of chrome. All bitch niggas, leave your little cars at home. Stay there. Detroit niggas don't play fair, son. Chickens be tricking, licking their head done. Yeah, son. It's now one.
These niggas spark shit, I'm on some biz, mall shit. Life, can you feel it? Feel it. Nothing can save you. But this is the season for stacking your paper. My click is the reason you're tucking your chain up. When you're fucking with this, you're fucking with danger. You see me up in the range, and I got a gang of niggas that be running with things. The guns to bang you. They be running with things. Got guns to bang you. When you're fucking with this, you're fucking with danger. When you see me do it, I do what you do it. When you see me do it, I do what you do it. When you see me do it, I do what you do it. Check it out,
cette proposition sur le thème du retard et de la fumée qui je l'avoue font entièrement partie de ma vie, je t'offre un petit moment d'amateurisme avec en plus une voix qui ne part plus dans les hauteurs grâce à la fumée. Voilà, c'est parti. Parfois je rêve que je suis une vache. Parfois je désire être une vache. Ne plus me poser de problèmes. Qui m'aime, qui j'aime. J'aurai du foin tout autour de ma bouche. Et mes grands yeux se couvriraient de mouches. Je ne verrai plus l'horizon ni ma route, sans doute. Et mon herbage est couvert de fleurettes, de pissenlits, de jolies pâquerettes. Ne plus chercher ce que je pourrais faire pour plaire. J'ai oublié de préciser que cette chanson n'a pas été écrite par moi-même. C'est une reprise de Pascal Borel, une chanteuse super qui mériterait d'être plus connue, à mon avis. Et ce qui suit est une chanson que m'a fait découvrir ma copine Marie Grandjean, qui est DJette. Et je suis, enfin, j'espère qu'elle te plaira. Voilà. Coucou Bruno. Alors
non, je peux pas, je suis déjà invité c'est l'anniversaire de notre soirée aussi.
OK.
Donc ça va être assez tendu quand même.
Donc sur stage.
Ah non, elle est revue.
Non, elle est là.
C'est l'anniversaire, non, son anniversaire officiel c'était le 8 mars.
D'accord.
Mais bah, du coup là elle le fête avec ses copines de l'école.
OK.
Bon, voilà,
mais je savais 6 ans. Je n'avais pas compris le timing.
Voilà.
Donc là, vous êtes trois.
On est tous les trois.
C'est pour ça que je te dis. C'est pour les bardés là.
Mais là, c'est un peu short. Ouais, tu vas essayer à la maison aussi.
Bah ouais, je suis jamais.
C'est pas mal.
Bah,
c'est peut-être vraiment bien fait.
Parce que toi, tu restes quand même là.
Jusqu'au 26 août.